Il se soucie de vous, vous souciez-vous de lui. Prêché le 21 juillet 1963 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Restons debout un moment pour la prière. Maintenant, avec nos têtes inclinées, y a-t-il des requêtes parlées ou faites juste signe en levant la main, si vous voulez seulement lever la main et juste tenez votre requête maintenant. Notre Père Céleste, nous approchons de toi encore pour ces requêtes et pour tous ceux qui ont leurs mains levées et ils ont besoin de toi, Seigneur, pour plusieurs choses. Tu sais ce qu'ils pensent dans leur cœur parce que tu es la parole et la parole juge les sentiments et les pensées des cœurs. Et je te prie, ô Dieu très gracieux, afin que tu répondes à chacun selon leurs besoins, sachant ceci que tu le feras selon leur foi. Donne-nous la foi, alors, en parlant de ta parole, Seigneur, qu'elle puisse leur apporter la foi. Aide-moi à parler de ta parole, car ta parole est la vérité, et qu'elle puisse apporter la foi pour répondre à ces requêtes. Et aussi, s'il y en a ici, Seigneur, qui se sont éloignés de la voie étroite, qui ne marchent pas dans le chemin de la vérité, nous prions, Père, que quelque chose soit fait aujourd'hui et que cela se manifeste afin qu'ils reviennent rapidement au sentier de la communion avec Christ. Les jours sont fort tard, la méchanceté est sur chaque main et il y a une grande apostasie. Et nous prions, Père, que tu te révèles à nous aujourd'hui en guérissant les malades et en faisant des miracles. Pas que tu dois le faire, Seigneur, pour nous faire savoir que tu es Dieu, mais parce que tu as promis de le faire. Et nous savons que tu nous accorderas tes promesses si nous les croyons seulement, et nous savons qu'elles sont vraies. Nous demandons ces faveurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je prenais justement un moment pour lire quelques requêtes qui étaient ici. Il y en a deux ou trois. Il y a une pour la prière et aussi il y a plusieurs mouchoirs. Et nous sommes heureux de prier sur ces mouchoirs en quelques moments quand nous sentons que la présence du Saint-Esprit est à son maximum. C'est à ce moment que j'essaye de prier pour ceci quand toute la congrégation est ointe de sa présence. Nous sommes désolés de vous déranger. Il y en a tellement debout et il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Et c'est un jour de temps chaud, au plus haut de sa chaleur. Nous avons environ 100% d'humidité et environ 100 degrés Fahrenheit. Alors c'est très collant et chaud. Et ce matin, j'ai distribué pour les services de guérison, ou la raison pour laquelle je dis service de guérison, c'est parce que je place ma foi en ce qu'il a promis. Voyez-vous ? Maintenant, je ne peux pas dire qu'il le fera, mais je crois qu'après avoir entendu sa parole et basant notre foi sur ce qu'il a promis, alors nous avons le droit quant aux promesses de salut. Et ces quelques requêtes, je ne sais pas si les enregistreurs sont branchés ou pas pour ceci. Cela pourrait être bon. Bon, je suppose que c'est correct pour l'extérieur. Pour que le public entende ceci, c'est une question. Avez-vous prophétisé qu'il y aurait 1 million de Noirs tués sur l'heure? Ou avez-vous juste annoncé que ceci arriverait? Maintenant, voyez, je vous ai toujours demandé d'être prudent quand vous écoutez quelque chose. Voyez-vous, il y en a tellement que c'est juste le côté humain. Mais toujours, si quelque chose va de l'avant, il dira, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand il s'agit de vision ou quoi que ce soit, et les visions sur la plateforme ou dans l'auditoire, vous faites cela vous-même. Ce n'est pas Dieu, c'est vous, voyez-vous? Dieu ne produit pas cette vision, mais vous-même, vous demandez qu'elle se produise par votre foi dans un don divin. C'est comme la femme qui toucha son vêtement, il ne savait pas qui elle était ou ce qu'elle avait, mais elle a fait cela elle-même, voyez-vous? Maintenant, ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Quand Jésus lui répondit et lui a dit que sa foi l'avait sauvé. Mais voyez-vous, vous devez surveiller. Non, je parlais juste de Martin Luther King, sur ce grand désastre qu'ils ont dans le sud avec les Noirs. J'ai dit, si ces gens étaient des esclaves, je prendrais mon église et j'irai dans le sud pour aider ces gens à sortir de l'esclavage. J'irai certainement parce que l'homme fait des esclaves, mais pas Dieu. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Nous venons d'un même âme et c'était d'Adam. Dieu, par un sang, a fait toutes les nations. Et que nos couleurs soient brunes, noires, jaunes, rouges, quoi que ce soit, nous sommes tous des créatures du Tout-Puissant, vous voyez? Il ne devrait pas y avoir de différence entre nous. La question là-bas, c'est la ségrégation dans les écoles. Maintenant, j'étais là quand cela a débuté. J'ai entendu et je sais de quoi je parle. Les gens noirs ont de bonnes écoles, parfois meilleures que les autres écoles. Et par exemple, à Shreveport, ils ont de meilleures écoles que les écoles blanches. Mais c'est l'idée que de quelqu'un qui les a inspirés, qu'ils devraient aller et se mélanger ensemble. Je crois que ce serait correct. Mais alors que les gens protestent, ces gens du Sud, alors quelle différence ça fait-il? Je pense que Martin Luther King est inspiré du communisme. Et il mènera environ 1 million de gens à un piège de mort. Absolument. Voyez-vous? Je ne dis pas que le Seigneur m'a dit cela. Je crois, voyez-vous? Et je crois que ça ne devrait pas être fait. Je crois que les gens devraient être chrétiens et se reconnaître les uns les autres comme frères. Et je crois, juste à cause des États-Unis, ce gouvernement me dit maintenant que je ne peux même pas signer un chèque qui me serait donné personnellement. Voyez-vous? Ce sont mes droits constitutionnels qui me sont enlevés. Mais que puis-je faire? Seulement continuer de l'avant et c'est tout, voyez-vous? Et ça doit passer par un autre système avant que moi, comme citoyen des États-Unis, je puisse encaisser le chèque. Il doit passer par l'Église, ou alors je ne peux pas l'encaisser, voyez-vous? Ce n'est pas correct. C'est anticonstitutionnel. Mais que puis-je faire? Il n'y a rien. Cet homme des impôts là-bas, c'est lui qui m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Alors c'est cela. Si c'est comme cela, que faire? Alors laissez-le aller. Je crois que ce devrait être la même chose que mes frères et sœurs noirs dans le Sud, ils ne devraient pas s'élever contre leurs frères et ces choses, pour si peu que cela. Et quelle différence où l'endroit où vous allez à l'école. J'ai vu une bonne sœur de couleur ce matin, quand ils ont eu la récolte là-bas à Shreveport, ce fut un vieux ministre qui disait constamment à la garde nationale, il disait, laissez-moi leur parler, il était un homme de Dieu. Il s'est levé et il a dit, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Il a dit, mon Créateur m'a fait ce que je suis et je n'en ai jamais eu honte jusqu'à ce matin. Mais il a dit, quand je vous vois, vous mon peuple, agissant ainsi, dit-il, alors j'ai honte d'être un homme de couleur. Et la garde nationale fut appelée et ils l'ont rejeté par des cris. Alors une femme, une bonne femme noire, éduquée, de bonne apparence, élevée, avec une suprême intelligence, elle a dit, premièrement, je ne veux pas que mes enfants soient enseignés par une femme blanche. Et ils disent, pourquoi? Elle dit, parce qu'elle ne prendra pas autant d'intérêt que n'en prendrait une maîtresse noire. Et elle dit, regardez nos écoles ici, pourquoi criez-vous? Elle dit, nous avons des piscines et tout dans nos écoles, et ils ne l'ont pas là-bas. Elle dit alors, pourquoi criez-vous? Et ils l'ont enterré sous leur cri aussi. Cela est inspiré par la mauvaise chose, vous voyez, ces gens. Et c'est la raison pour laquelle je dis cela. Pas qu'il y ait une prophétie concernant cela. Je n'ai rien sur cela venant du Seigneur. Et soyez certains que si je dis quoi que ce soit venant du Seigneur comme cela, pour vous dire, c'est toujours... Bien, c'est moi qui parle maintenant. Mais quand il parle, je dis, ce n'est pas moi, c'est ainsi dit le Seigneur. Et je ne puis pas le dire jusqu'à ce qu'il me le dise. Je puis me tromper dans mes pensées sur Martin Luther King. Je ne sais pas, je ne puis pas dire, c'est seulement mon opinion. Tout ce qui incite le trouble, c'est supposé être ainsi dans les derniers jours, et tout cela est inspiré de Satan pour briser notre confédération et tout ce que nous avons. Tout ce qui s'élève comme cela. Alors je suis pour ces gens là-bas. Ne pensez jamais que je ne le suis pas. Je suis pour la liberté, pour tout. Mais ils n'ont pas cette situation sous contrôle encore. Mais ce qui arrivera, je crois, c'est que cela commencera une autre révolution si personne ne l'arrête. Vous voyez, ce sont les communistes qui œuvrent parmi ces gens. J'étais en Afrique, alors qu'ils ont fait la même chose, voyez-vous. Et je sais qu'il y avait des communistes qui sont entrés là, et ils ont dit à ces gens de couleur, « Oh, vous êtes ceci ou cela ou autre, vous êtes ceci, cela et autre. » Et la première chose que l'on a su, cela a fait que des milliers ont été tués. Et où cela les a-t-il emmenés? Nulle part, vous voyez, nulle part. Et j'aime la vie humaine. Servons le Seigneur. Notre royaume est d'en haut. Cela n'a rien à faire avec cette chose ici-bas. Autant que l'on mange, que l'on boit et tout ce que nous possédons, que voulez-vous de plus, voyez-vous? Alors je sais ce que ce serait. Je réalise que cela cause seulement du trouble. Bien. Maintenant une autre question ici. Jean-Baptiste, quand il a rencontré Jésus, pourquoi a-t-il dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Que voulait-il dire? Bien, je me rappelle Dr. Roy Davis, un ami personnel à moi-même, qui m'a baptisé la seule fois où j'ai été baptisé. Et il a dit que Jean voulait dire, je me rappelle ceci dans leur école, il a dit « Jean savait qu'il n'avait jamais été baptisé lui-même ». Alors Jean a demandé à Jésus de le baptiser. Alors cela, je ne suis pas d'accord avec le grand docteur là. Pas pour contrarier, mais pour l'amour de la vérité, je dirais ceci. Non, il y avait deux hommes, les deux conducteurs de l'heure. Le Messie et son prophète se sont rencontrés tous les deux dans l'eau. Alors rappelez-vous, Jean ne baptisait pas pour la rémission des péchés, mais pour la repentance. Pas pour la rémission des péchés, car l'offrande n'était pas encore faite, voyez-vous. Il n'y avait pas eu de sacrifice. Et le sacrifice vint à lui dans l'eau. Remarquez maintenant, Jean regarda, et quand il vit Jésus, il dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, et cela fut fait ainsi. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ensuite, Jean étant un prophète à qui la parole du Seigneur vint, elle vient seulement au prophète, Jean étant prophète a compris que c'était le sacrifice. Et selon la loi, le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Et c'est la raison pour laquelle il le baptisa. Voyez-vous? Il a dit, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le sacrifice qu'il était, devait être lavé dans le lavoir avant d'être présenté comme sacrifice. Et Jean le savait. Et il savait qu'il devait être lavé avant d'être présenté. Et immédiatement après, il fut présenté au public pour l'épreuve, le test. Et il fut le sacrifice pour toute la vie humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous aurons un petit message bref. Et ayant confiance que le Seigneur accordera ses bénédictions. Maintenant, probablement, si je reviens, je pars la semaine prochaine pour emmener les enfants pour quelques petites vacances dans les montagnes. Et après, si je reviens à temps, nous voulons parler dimanche prochain au matin, si Dieu le permet et si le pasteur aussi ici est d'accord, nous vous le ferons savoir plus tard cette semaine, pour vous qui êtes du dehors de cette ville. Par le moyen d'une lettre. Je veux parler sur un sujet exactement pourquoi nous croyons les choses que nous croyons à propos de Christ. Pourquoi ce doit être ainsi et ça ne peut pas être d'aucune autre manière, voyez-vous? Et nous le prouverons par les Écritures. Maintenant, Dieu voulant, si je ne peux pas, j'essaierai de vous voir cet hiver ou l'été prochain quand nous reviendrons si le Seigneur tarde. Nous retournons maintenant à la maison en Arizona afin d'envoyer les enfants à l'école. Maintenant, ce matin, juste avant la prière pour les malades, nous lirons la parole de Dieu, à laquelle nous savons que sans cette parole, c'est impossible. Rien ne peut être fait. Et seulement la parole peut produire ces bénédictions que nous demandons pour les malades et les gens qui sont dans le besoin. Et je veux lire maintenant de 1 Pierre, chapitre 5, en commençant par le premier verset, et ensuite au livre des Hébreux, je veux lire Hébreux, chapitre 2, versets 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 7 inclus. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Testez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Et dans le livre des Hébreux, le 2e chapitre, nous lisons ces paroles. Maintenant, je vais donner comme texte « Déchargez-vous ou déchargez vos soucis ». Mon texte est « Il se soucie, vous souciez-vous ». Et je veux lire cette portion maintenant pendant que vous vous tournez à Hébreux chapitre 2, afin que vous voyez le vrai sens de ces paroles, ce que veut dire ce texte. Hébreux chapitre 2, versets 2 à 4. « Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges, et par divers miracles et distributions de l'Esprit-Saint selon sa propre volonté. Je veux utiliser le sujet « Il se soucie et vous souciez-vous ». Quand il était sur la terre, il se souciait pour les gens. La pensée me vient à l'esprit juste avant de parler ou de prier pour les malades, ne sachant pas quelle sorte de ligne de prière nous aurons. Premièrement, et pour approcher ceci, l'auditoire doit être loin avec la foi. Et si vous n'avez pas la foi, alors il n'y a même pas besoin de venir afin que l'on prie pour vous, parce que cela prendra votre foi et ma foi ensemble. Ma foi pour croire en lui, votre foi pour croire en lui. Alors n'oublions pas ceci comme je vais de l'avant. Nous devons avoir quelque chose, évidemment, avec évidence, je veux dire, afin de baser notre foi sur ce que nous essayons de faire. Car si un homme approche quelque chose qu'il veut faire avec insuffisamment de foi, il est voué à l'échec. Mais s'il peut l'approcher avec suffisamment de foi, alors il est destiné au succès. Si c'est en accord avec la volonté de Dieu et pour son but. Maintenant, je pensais comme il se soucie. Hier soir, étrangement, j'étais conduit par le Saint-Esprit alors que j'attendais quelques gars là-bas qui venaient aider Frère Wood pour placer un mobile home qu'il avait bâti juste derrière son camion. Je ne savais pas pourquoi. J'essayais de trouver mon bon ami Frère Evans et je partis. Et je commençais à gravir le chemin. Ma femme et ma famille assis ici, ils savent que c'est vrai. Et étrangement, je me suis tourné et j'ai tourné à un endroit, à un motel. Oh, comme cela a réjoui mon cœur de voir tant de mes amis réunis ici, environ en 2 minutes de temps, jusqu'à ce que cela congestionne le pavé. Les autos ne pouvaient plus passer. De vrais amis qui ont conduit des centaines de kilomètres de Géorgie, Tennessee, Alabama, partout, juste pour entendre un service. Et cette pensée me vint à l'esprit. Que pourrais-je dire à ces gens, sachant qu'au jour du jugement, j'aurai à répondre pour ce que je leur dis. Et je suis aussi un amoureux de cette grande vie qui est à venir. Je veux être là-bas. Et étrangement, je suis allé à un endroit où j'ai fait un drôle de virage. Au lieu de tourner là, je suis monté pour faire un virage. Et les lumières ont juste éclairé un joli couple dehors, deux jeunes femmes que j'avais mariées à deux jeunes ministres. Et Satan, après qu'il eut vu le ministre, l'un d'entre eux, son ministère étant placé, il a pris une compagne à vie ici, à cet hôtel. Et ils sont allés heureux dans leur lune de miel. Et l'ennemi a sauté sur ce jeune homme. Et je dis ceci pour exprimer ce que je disais. Se soucie-t-il d'une manière ou d'une autre avec la foi? Cela ne prendrait pas un nom. Ils ont fait demi-tour, ils sont retournés là-bas, sachant après être allés si loin dans l'Est, quelque part, pour leur lune de miel, ils sont retournés et ils étaient assis, attendant. Et je suis entré. Un bon jeune homme, d'une belle apparence, sa femme assise dehors pleurant, elle et son petit compagnon, et l'autre homme, et l'autre frère venant courant, qui était un ami à ce jeune homme. Il dit, « Oh, frère Branham, ceci et cela est arrivé. » Je suis allé et j'ai vu ce beau jeune homme assis là, juste à la cime de sa vie, un dirigeant de jeune homme, assis là, Satan l'a lié. Il n'a jamais remarqué. Mais j'ai pris ma main gauche et pour serrer sa main droite, pour voir si quelque maladie l'avait affligé. Mais il n'y avait aucun signe de vibration. Il sortait de la chambre, après avoir prié et jeûné, et s'attendant au Seigneur. L'onction du Saint-Esprit était là. Et c'est pour cela qu'il nous conduisit. Vous voyez? Et puis, voyant cette ombre de noirceur sur lui, je n'ai jamais dit ce que je faisais. Mais en moins de quelques minutes, c'était tout parti. La froideur de ses mains était partie. Il criait et il louait Dieu quelques minutes pour se retrouver. Et les voici assis ce matin, assis dans l'auditoire. Voyez-vous comment Satan essayait de bouleverser ce jeune homme en lui donnant une sorte de complexe auquel le Saint-Esprit savait cela et je l'ai vu dans une vision du Seigneur. Mais Dieu se soucie de ce jeune homme. Dieu se soucia pour ce jeune homme. Et une dame qui entrait il y a quelques instants, je la vois assise ici dans l'allée. Elle vient de trouver un siège quelque part, elle s'assied. Elle m'a dit, frère Branham, j'ai essayé pendant 9 ans de vous rejoindre. Et elle dit, je suis si désespéré, je suis arrivé en retard, je n'ai même pas pu avoir une carte de prière pour être dans la ligne. Billy, comme de raison, c'est son travail à lui de voir que je ne sois pas dérangé, de me faire entrer, de me faire sortir. Ne soyez pas fâché alors après lui. Il est commandé par le conseil des administrateurs pour faire cela. Et s'il ne le faisait pas, je ne pourrais même pas arriver à la ligne de prière. Vous réalisez cela, voyez-vous? Il doit y avoir un système à tout ce que nous faisons. Nous devons l'avoir, voyez-vous? Mais lui, il a dit, viens papa, dépêche-toi. Et la dame a reculé. Elle a dit, frère Branham, seulement un mot avec vous. Et me tenant là, une vision arriva sur cette jeune femme. Je vis que son cœur était troublé. Elle essayait de travailler pour vivre. Et une grande chose arriva du temps de ses parents, qui avait causé que cette grande chose lui arriva, et le Seigneur Jésus révéla ce que c'était. Et là, en un moment, il l'a enlevée de cette femme. Elle allait se réjouissant, et maintenant, elle est assise avec nous dans l'auditoire, se réjouissant avec des larmes. Et comme elle essuie ses larmes maintenant, sachant que la vérité sur toute chose s'est révélée. Et cette pauvre femme neurotique était si nerveuse, qu'elle ne savait plus quoi faire d'elle-même, pensant qu'elle était perdue, qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit, que ceci était son dernier jour. Elle avait essayé pendant 9 ans, elle était poussée à bout, mais Dieu se soucia pour cette petite femme dont personne ne se souciait. Oh, quel temps il se soucie! Quand il était ici sur la terre, comme je disais, il se souciait pour les gens, tellement qu'il guérissait leurs maladies, il réconfortait leur cœur, et il leur parlait d'un endroit qu'il irait leur préparer et qu'il reviendrait pour les recevoir pour lui-même. Il se souciait d'eux. Et remarquez, il se souciait tellement jusqu'à quand il sut qu'il devait partir afin de nous envoyer ces grandes choses, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il continuera mon souci pour vous jusqu'à ce qu'il revienne. Personne ne se soucie comme Jésus. Sachant que son corps, comme un grand sacrificateur, dans une œuvre de médiateur qu'il fait maintenant, ce corps doit être dans la présence de Dieu en tout temps pour intercéder, afin que Dieu ne voie pas le péché du pécheur. Il voit seulement le sang de son propre Fils. Et sachant qu'il envoya le Saint-Esprit pour continuer à réconforter son peuple. Se soucie-t-il? Certainement qu'il se soucie. Maintenant, il devait continuer à se soucier pour les gens. Ces gens qui étaient ici sur la terre, de la même façon qu'il se souciait d'eux quand il était ici. Parce qu'il a dit dans 5 Jean chapitre 15, si vous voulez faire, j'ai des notes ici avec les écritures auxquelles je me réfère. 5 Jean 15, 26 et 27. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Je vois que plusieurs de vous, vous écrivez les Écritures. Alors je dois me référer à ceci plusieurs fois, car si vous ne savez pas où cela se trouve dans l'Écriture, j'écris l'Écriture et ensuite je sais de quoi je parle. Car c'est toujours dans la parole, voyez-vous? Il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, que le Père enverra en son nom, il rendra témoignage de lui. En d'autres termes, il ferait la même chose qu'il ferait. Le Saint-Esprit œuvrant au travers d'un tabernacle qu'il avait sanctifié. Et il ferait la même chose qu'il a fait. Maintenant, ce que cela devrait nous faire, alors nous savons qu'ici, parmi nous aujourd'hui, nous avons le même Consolateur, le Seigneur Jésus, dans la forme du Saint-Esprit, un autre Fils dans lequel Dieu lui-même œuvre. Il était un Consolateur pour Israël. Quand ils élevaient leurs yeux, ils voyaient la colonne de feu et ils pouvaient entendre le prophète prononcer les paroles qui étaient vraies et Dieu le confirmait. C'était leur Consolateur. Il était un Consolateur quand il était ici sur la terre. Comme un homme, Dieu fait chair, Dieu se représentant lui-même, s'exprimant lui-même au travers d'un homme. Jésus-Christ qui a promis que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et je m'en vais au Père et j'enverrai le Saint-Esprit qui sera moi-même dans la forme d'esprit, et je serai avec vous et même en vous. Et la même chose que j'ai faite ici, le Saint-Esprit le fera de nouveau en mon nom quand il viendra. Voyez-vous? C'est pourquoi il a dit « Parlez contre ceci ». Cela, c'est l'expiation déjà faite. C'est un péché impardonnable de blasphémer le Saint-Esprit. Et il le fera de la même manière, afin que nous sachions si c'est un consolateur d'un point de vue terrestre, si c'est un consolateur venant d'une personne âgée qui pourrait mettre leurs bras autour de nous, nous caresser un peu, nous faire nous sentir bien, ou quelques termes théologiques de dénomination qui diraient « Maintenant, vous nous appartenez, nous l'avons, n'appartenez pas aux autres car ils ne l'ont pas. » Non, il a bien dirigé la direction. Il parlera en mon nom. Les œuvres que je ferai, vous les ferez aussi quand il sera sur vous. Voyez-vous? Il réconforterait de la même manière en pardonnant tous nos péchés, en guérissant toutes nos maladies et en nous parlant du Consolateur d'un royaume qui est à venir. Voyez-vous? Se prouvant lui-même parmi nous comme Dieu s'est prouvé lui-même parmi nous en Jésus-Christ. Et en 2 Timothée, 1 Timothée 3, 16, c'est écrit comme ceci, sachez-le de Dieu, sans contredit, le mystère de la divinité est grand, celui qui était manifesté en chair. Nous avons vu Dieu dans la chair, c'était le Consolateur de Dieu, de savoir qu'il se souciait tellement de nous, jusqu'à ce qu'il devienne l'un d'entre nous. Dieu manifesté dans la chair, pas juste une autre personne, mais Dieu, Dieu lui-même. Et maintenant, pour faire un autre pas plus près, il envoie le Saint-Esprit pour se soucier de notre confort, et il habite en nous. Oh, il se soucie. Maintenant, nous devons aller à une autre portion des Écritures ici, ou à une autre pensée pour confirmer. Avant de partir, je dois dire ceci. Pas tous ont ce Consolateur. Ils ne l'ont pas. Non, ils ne l'ont pas. Alors la raison pour laquelle ils ne l'ont pas, c'est parce qu'ils ne l'acceptent pas. C'est pour eux, mais ils ne l'acceptent pas. Maintenant, j'espère que vous êtes assez spirituels pour lire ce que je dis. Voyez-vous, je parle d'un groupe de gens pour lesquels on va prier dans quelques minutes. Et nous avons le Consolateur dont le Saint-Esprit qui est envoyé pour le Consolateur, mais tous les gens ne le recevront pas. Ils n'y croient pas, voyez-vous. Eux, pour faire cela, ils recueillent leur Consolateur d'une autre source, d'un autre moyen. S'ils n'acceptent pas le consolateur pourvu par Dieu, alors ils doivent trouver un autre consolateur, vous voyez? Car vous ne pouvez pas vivre sans avoir quelques buts pour vivre. Et j'espère que vous aurez tout cela, spécialement les gens qui sont dans la ligne de prière, qui ne sont pas bien confortables ce matin, qui ont peut-être des troubles que les médecins ne peuvent pas guérir. Et nous croyons que les médecins aident les gens. Je crois que Dieu guérit par la médecine, Dieu guérit par la chirurgie, Dieu guérit par la compréhension, Dieu guérit par l'amour. Juste un peu d'amour peut aller bien loin. Si quelqu'un est troublé, montrez-leur que vous les aimez, voyez-vous? Dieu guérit par l'amour, Dieu guérit par la prière, Dieu guérit par les miracles, Dieu guérit par sa parole. Dieu guérit, quelque sorte que ce soit, Dieu guérit par la parole. C'est Dieu qui guérit, car il a dit, « Je suis le Seigneur qui guérit toutes vos maladies. » Alors, tout cela devrait marcher ensemble, et des hommes dans des ministères différents devraient travailler pour cela, voyez-vous? Mais ils ne le font pas, parce que parfois ils sont empêchés de prendre position sur la parole de Dieu, parce que leur dénomination ne leur permet pas de faire cela. Mais cela n'empêche pas la vérité tout de même. Dieu continue de guérir quand même. Alors ils essayent de réconforter par une autre source. Mais parlons premièrement à l'âme. Nous découvrons que plusieurs personnes essayent de se consoler en buvant. Vous savez, nous avons un dicton qui est connu parmi nous aujourd'hui, que plusieurs ministres boivent parfois avant d'aller à la chaire. Ils prennent un bon verre d'intoxication. Cela est connu de voir des ministres sur la plateforme qui même vacillent sous l'influence de l'alcool. Et cela ne devrait pas être. Cela ne devrait pas être. Parfois, nous condamnons peut-être l'homme, alors qu'on ne devrait peut-être pas faire cela. On devrait découvrir leurs troubles. Plusieurs ont été convertis de l'alcool. Et nous découvrons que s'ils sont dans cette condition, c'est un déshonneur et une honte. Mais ce n'est pas plus une honte que ce serait de mentir, de voler ou de convoiter les femmes ou toute autre chose qui sont dans les commandements. Voyez-vous? Peut-être qu'un homme naît hyper passionné et qu'il voit ses essayeuses modernes dans la rue. Il est constamment dans le trouble, voyez-vous? Il est né comme cela. Alors, ce que devrait faire le ministre qui boit, ou la femme qui fume, ou elle s'habille immoralement, essayant de se consoler d'être si bien faite qu'elles veulent tenter l'homme pour les regarder. Il n'y a pas d'autre raison. La femme est partiellement insensée, voyez-vous? Car aucune femme sensée ne se déshabillerait devant l'homme si elle a toute sa tête, voyez-vous? Il n'y a pas de raison pour ça du tout. Elle essaye de, comme ces jeunes filles qui vont dans la rue, elles sont prêtes. Bien, excusez-moi l'expression, mais rappelez-vous, cette bande ne va pas seulement à ces gens ici, elle fait le tour du monde, voyez-vous? Mais une femme qui enlèverait ses vêtements, elle sait que c'est plus chaud encore marcher au soleil nu et ensuite marcher avec des vêtements. Et dites-moi, qu'est-ce qui est le plus frais? Les Indiens là-bas, les Papados et les Navajos, spécialement les Papagos et tous ceux de la réserve, ces femmes sortent avec des couvertures en gros tissu sur elles. Elles s'assoient ainsi au soleil, elles restent fraîches. Pourquoi? Parce qu'ils transpirent et le vent qui souffle prépare un genre d'air conditionné, voyez, et ces femmes n'ont pas d'autre raison que... Oh, ils ne savent pas, ils ne réalisent pas. Je ne dis pas qu'ils le savent. Plusieurs sont des femmes bonnes, je ne dis pas cela pour être grossier, je le dis afin de les réveiller, vous voyez. Mais c'est seulement Satan. Vous réalisez que l'autre sexe, les mâles, qui les regardent, cela leur donne une telle influence jusqu'à ce qu'ils fassent crier leurs pneus et qu'ils sifflent comme des loups. Et pourquoi font-ils cela? Les femmes font cela afin que les hommes fassent cela. Pourquoi sortez-vous dans la chaleur du jour à 4 heures de l'après-midi pour tondre le gazon quand les gens reviennent de leur travail, des choses comme cela? Cela montre que c'est un esprit d'aliénation mentale. Je sais que plusieurs ont un quotient intellectuel 1000 fois plus élevé que le mien, mais je compare votre quotient intellectuel avec la parole de Dieu. Voyez comment cela se termine, voyez-vous? C'est le quotient moderne, mais l'évidence même et l'esprit le prouvent. Alors ils essayent de se consoler comme cela. Plusieurs disent, Oh, je ne fais pas cela. Mais s'habille de telle manière apparente afin d'être plus moderne que la femme qui s'assiera près d'elle à l'église le matin. Elle portera un meilleur chapeau ou des meilleurs vêtements parce que vous avez les moyens de le faire. Vous voyez? Le péché atteint le fond. Elles essayent de se consoler en faisant cela. Cela est devenu tellement apparent jusqu'à ce que toute la nation fût frappée. Non seulement la nation, mais le monde entier. Il y a plusieurs choses que je pourrais dire ici, mais pour gagner du temps et le service de guérison qui arrive, je pourrais parler longtemps sur ceci, mais je ne le ferai pas. Je suis sûr que vous comprenez. Ceci a frappé le monde politique, la vie sociale, la vie morale de la nation et tous les gens autour du monde. Cela est arrivé au point où l'homme peut être politicien juste pour dire qu'il a un nom de politicien. S'il a beaucoup d'argent, il peut tirer les vôtres, acheter des machines pour le faire, et ainsi de suite, juste pour avoir un nom, et il vaut des millions et des millions de dollars, vous voyez, juste pour le nom, afin d'être un grand politicien. Bien, j'en ai assez dit sur cela. Vous savez ce que je veux dire. Et la vie sociale. Les gens essayent de se réunir dans cette vie sociale insensée. Ne me dites pas que le monde n'est pas insensé et faire ce qu'ils font. Il l'est sûrement, certainement. C'est un monde neurotique. Et le seul moyen d'échapper, c'est par la grâce de Dieu. Remarquez dans cette vie sociale, les gens sont rendus tels. Ils font des petits clans, ils s'enrôlent et ils pensent, nous sommes mieux que l'autre groupe. Voyez-vous? C'est fait comme ça. Et c'est la morale. Cela atteint la morale des gens. Jusqu'à ce que, sincèrement, mes amis, je ne crois même pas que le mot morale est reconnu parmi 90% des gens de cette nation. Ils ne savent même pas ce que veut dire le mot « moral ». Cela leur échappe. Et c'est fait avec tant de séduction. Satan est très subtil. Il le fait si aisément, si subtil. Juste un petit peu ici et un petit peu là, et laissez-le. Il y a beaucoup de temps. Alors il court un peu ici, un peu là. La première chose que vous savez, les gens sont graduellement embarqués dans le jeu. Que serait-il arrivé à une femme quand j'étais un garçon de 16 ans? Si elle avait marché dans la rue de la manière qu'elle le fait aujourd'hui, dans cette forme de striptease, il l'aurait jeté en prison. Alors, si c'était mal en ce temps-là, c'est mal aujourd'hui. Mais voyez-vous, Satan commence juste à couper un peu les jupes, à les abaisser. Cela arrivera qu'ils vont dessiner un modèle un peu plus que le monokini ou le bikini, ou comment appelez-vous cela? Comme la feuille de figuier. Vous vous rappelez? Cela retournera comme autrefois. Et nous sommes pratiquement rendus à ce point-là maintenant. Et maintenant, nous trouvons que toutes ces choses arrivent parce que les gens cherchent un consolateur. Ils cherchent quelque chose qu'ils... Et rappelez-vous, votre consolation, c'est votre religion. Et vous faites de ces choses votre religion. Voyez-vous? Quelle pitié quand nous réalisons que la mort est tout près. Voyez-vous? Tout ceci est arrivé et il semble qu'il n'y a même pas de fondation qui reste dans la nation pour bâtir dessus. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous ne pouvez quasiment rien croire autre que la Bible. Nous avons encore Christ, gloire à Dieu, voyez-vous? Mais vous ne pouvez rien croire. Par exemple, quand vous ouvrez votre téléviseur, pour vous qui en avez, lorsque vous ouvrez vos téléviseurs et vous voyez les réclames, bien, si une personne essaie de vivre par un centième des réclames publicitaires, vous mourriez dans une semaine. Voyez-vous, vous ne pouvez même pas le faire. Et les choses que certaines compagnies trouveront comme produits dire, c'est le bon produit ici, et ne prenez pas celui-là, et c'est la même compagnie qui vend le même produit. Et une autre réclame publicitaire arrive, prenez celui-ci et pas celui-là, et c'est la même compagnie. Et les gens en Amérique, ils se font avoir avec de telles choses. Et la chose est devenue tellement pourrie qu'il n'y a même plus d'espoir du tout. Personne ne sait que croire. Mais je vais vous le dire maintenant, ce que vous devez croire si vous voulez un consolateur, Dieu voulant. Les gens, ils mentent, ils volent. Vous devez quasiment avoir un bon de sécurité pour emprunter 5 dollars de quelqu'un. C'est une... Vous savez, la Bible nous parle de cela, qu'il n'y aurait plus d'amour dans les derniers jours, seulement parmi les élus. C'est vrai, L'Écriture parle de cela, que le mari serait contre sa femme, la femme contre son mari, les enfants contre les parents. Il ne restera de l'amour seulement que parmi les élus du Seigneur. Les églises font la même chose dans leur vie sociale. Ils ont apporté cela dans l'église, leur vie sociale, leur politique, les autres choses, jusqu'à ce que l'église soit dans une telle confusion qu'elle ne sait plus quoi faire. Ils ont apporté la politique dans l'église. Ils ont aussi apporté la vie sociale dans l'église, nos activités sociales, le bingo, le bango, ou le jeu, peu importe le nom, et tous ces soupers, et ces danses, et ainsi de suite, dans la maison du Seigneur. Oh, quelle honte! Et ils disent, oh, bien, ce n'est pas dans l'église, c'est dans l'annexe. Rappelez-vous, c'était dans l'annexe aussi que Jésus souhaita les marchands avec leurs marchandises, et il dit, il est écrit, la maison de mon Père est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Voyez-vous, c'est mal où que ce soit. Aussi longtemps que l'église, ce n'est pas tellement le bâtiment, ce sont les gens qui sont dans le bâtiment. Et si les gens envisagent cela, alors c'est faux. Et ils pratiquent ceci. Nous découvrons que les églises aussi promettent toujours quelque chose, comme la télévision et ainsi de suite. Ils ne parviennent jamais à la chose promise. Comme j'ai souvent dit, une vieille citation, l'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a fait, il loue Dieu pour ce qu'il fera, est anxieux de voir ce qu'il fera, et ils ignorent ce qu'il fait. Voyez-vous? Ils manquent de voir cela. Et c'est pourquoi elles deviennent historiques après peu de temps, et polluées, parce qu'ils manquent de reconnaître cela. Vous pouvez parler de la consolation que Christ vous a donnée jadis, et dire qu'il vous consolera dans les années à venir, mais il refuse la consolation qu'il a ici pour vous maintenant. Voyez-vous? Mais c'est sur la même base que nous trouvons cela. Oh, c'est devenu une grande chose. Nous découvrons qu'il vienne. Cela arrive même dans la Pentecôte, dans les églises. Cela continue dans le royaume pentecôtiste, où il promet toujours quelque chose, et cela n'arrive jamais. Il arrive toujours que chaque personne a une sensation différente. Ils le font même si ce n'est pas dans les Écritures. Et ils promettent quelque chose qu'ils ne peuvent atteindre jusqu'à ce qu'ils semblent ne plus avoir sincérité. Les gens n'arrivent pas au vrai noyau de la sincérité. Ils ont perdu le mot anglais de sincérité. Ils ont perdu la valeur, la perdu de sa valeur pour les gens. Ils ne semblent même pas comprendre. Même nos confessions, maintenant, je veux que les gens qui viennent, ou ceux-ci, ou ceux qui sont sur les bandes, je veux que vous écoutiez attentivement un moment à cette citation. À moins d'être profondément sincère, et vous ne pouvez pas être sincère, à moins de comprendre positivement. Si vous présumez, ou devinez, ou espérez, alors il ne peut y avoir la profonde sincérité dont Dieu exige. La foi, ce n'est pas un j'espère ou c'est peut-être vrai. Ce doit être absolument amen. C'est votre absolu. C'est votre absolu. C'est la chose à quoi vous êtes lié. Voyez-vous? Vous êtes venu à votre absolu. Et c'est la vérité, rien d'autre que la vérité. Et ça doit être ainsi. Et quand vous réalisez cela dans votre esprit, alors vous devez l'approcher avec toute votre vie, votre âme et votre corps. Tout ce qui est en vous, vendez-vous complètement à lui. Et Jésus nous a gracieusement enseigné, en parlant de l'homme qui achète des perles, et il trouve celle qui est de grand prix, et il vend tout ce qu'il a pour avoir celle-ci. Toutes les vérités, tout ce qu'il avait, il pensait qu'elles étaient de bonnes perles. Celle-ci comptait plus pour lui. Et quand vous trouvez l'absolu de Dieu, sa parole, une promesse pour une certaine chose, vous devez savoir premièrement que c'est la parole de Dieu et la chose que vous voyez se manifester, que c'est Dieu. Il n'y a pas de peut-être, ou cela se peut, ou cela semble peut-être vrai. C'est Dieu. Et quand vous atteignez ce point, alors c'est la perle de grand prix. Vous devez vous éloigner de tout ce que les autres vous disent de contraire à cela. Vous ne devez pas regarder à ce que l'homme acquiert. Vous devez regarder à ce que Dieu a dit et ce qu'il a promis et le voir le faire, et c'est votre absolu. Et ensuite, tout ce que vous êtes, tout ce que vous étiez, tout ce que vous espérez être, doit être placé sur ceci, comme si ce serait la vie ou la mort pour vous à ce moment. Je crois qu'une des choses qui empêche les gens d'être guéris, c'est le manque de confession. C'est le manque d'une sincère confession. Maintenant, par exemple, cela peut sembler un peu mal, mais ce n'est pas de cette manière que je veux le dire. Mais regardons ma pharmacie ici. Si je sortais d'ici aujourd'hui, et que je jetterais mes bras autour d'une autre femme, et que je ferais l'amour avec elle, et que je saurais ensuite, après avoir fait cela, que j'étais dans l'erreur. Comme de raison, mon consolateur m'empêchera de faire cela. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais je veux dire que si je faisais cela, ou cela arriverait que je le fasse, ou quelque chose de semblable, alors, la première chose serait de dire à ma femme, avant de dire à Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai péché contre elle. Et si vous venez à l'autel, et que vous vous rappelez que vous avez osé, ou que vous avez dit quelque chose de travers, allez faire la paix, premièrement, avant d'offrir votre don. Alors je dois aller vers elle. Je crois que la confession nous redresse également. Sinon, ce n'est pas une vraie confession. Disons que je dis maintenant, je vais confesser que j'ai péché. Je dis, ô mon bon Seigneur, ô mon ami, tu sais que je te connais très bien. Gloire à Dieu, alléluia, je crois que tu es un bon gaillard. Pardonne-moi, tu sais mon vieil ami, ce n'est pas ce que je voulais dire, voyez-vous. Maintenant, vous dites que c'est sacrilège, cela l'est. De faire une confession comme cela, cela l'est. Mais si je disais, Seigneur, je ne voulais pas faire cela de cette manière, mais aide-moi et je ne le ferai plus, il refusera mon sacrifice jusqu'à ce que j'éclaircisse cela avec ma femme. Et si je venais à elle avec la même révérence, et si je disais, dis donc, vieille fille, ma vieille amie, vieille mère de mes enfants, ma vieille chérie, tu sais que nous avons été amis longtemps. Dis donc, si je mettais mes bras autour d'une autre femme, qu'en dirais-tu, ma vieille amie? Me pardonnerais-tu? Oh, je m'imagine de ce qu'elle aurait l'air. Elle penserait, qu'est-il arrivé à mon mari, voyez-vous? Maintenant, la première chose, c'est qu'elle ne saurait pas si je suis en train de plaisanter ou si je ne plaisante pas du tout. Et vous ne faites pas une confession à Dieu ou à votre frère de cette manière. Vous allez avec une profonde sincérité, avec un chagrin divin de votre péché. Premièrement, vous devez regretter la chose. Tu dois lui dire, chérie, viens ici. Cela peut vouloir dire le reste de notre vie conjugale. Fini. Mais la femme avec laquelle je vis, c'est ma chérie. Et comme je t'ai aimé pendant toutes ces années, mais maintenant, tu vas peut-être me quitter à partir d'aujourd'hui. Peut-être ne resteras-tu plus avec moi. Peut-être n'accepteras même tu plus, et je sais cela. Mais malgré tout, pour arranger cela, je dois éclaircir cela. Je dois lui dire avec la profondeur de mon cœur. Et ensuite, je dois le dire à Dieu de la même manière. Et le dire à elle et à Dieu avec sincérité que je ne le ferai plus jamais par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Ne faites pas seulement. Maintenant, je pourrais peut-être m'arranger afin que ça lui passe au-dessus et qu'elle, voyez-vous, qu'elle ne le voit pas. Peut-être que mon sermon la convaincrait, mais mon sermon ne convaincra pas Dieu. Il regarde dans mon cœur et il sait tout. Et après tout, encore quelques années avec elle, si Dieu le permet, et nous serons sortis de ce monde. Mais avec Dieu, c'est l'éternité. Alors je dois être profondément sincère avec Dieu. Et ensuite, si je suis sincère, il m'entendra. Mais si je ne suis pas sincère, il n'y a pas besoin de faire perdre du temps à Dieu pour vous écouter. Et c'est où nous en sommes aujourd'hui. Parmi les gens, il ne semble pas y avoir les profondeurs de sincérité qu'il devrait y avoir. Et je crois qu'un homme ou une femme qui vient et qui s'avance pour que l'on prie pour eux, ils devraient premièrement confesser tout ce qu'ils ont fait, arranger les choses. Parce que voyez-vous, vous remarquez souvent sur la plateforme, vous remarquez, surveillez combien loin c'est ainsi dit le Seigneur, voyez-vous? Les gens, la vision matérialisera comme de raison avec leur foi, Dieu l'a promis par un don, mais la guérison c'est quelque chose de différent, voyez-vous? Dieu le reconnaît, alors vous voyez, maintenant nous remarquons, c'est-à-dire les gens qui font leur confession doivent le faire avec une profonde sincérité. J'ai ici, je n'ai pas le temps de le lire, mais c'est Binghamton, je crois que c'est bien cela. Où est-ce que je me trompe? Oui, Binghamton, je crois que c'est correct. L'endroit où il y a la compagnie de souliers Endicott, Binghamton, je crois, qu'on l'appelle Binghamton. Binghamton, c'est bien ça, New York. Nous étions là-bas, à l'endroit des souliers Endicott Johnson, un grand auditoire, un grand auditorium, et nous avions une réunion là. Et un matin, Billy Paul était juste à la porte voisine de moi. Il y avait des vents froids et des courants d'air qui soufflaient. Et j'avais trouvé parmi les gens un manque de sincérité, me semble-t-il. Et je me demandais pourquoi. Et voici, il y avait un homme qui était guéri, dans le but, ou un homme en particulier dont je parle. L'homme avait une grande affliction, et il fut guéri, debout, ce soir-là. Et avant de partir, 5 jours, l'affliction était de nouveau sur lui, voyez-vous? Parce que dans la présence du Saint-Esprit, il le lui enleva. Tout comme il le fit à cette jeune femme il y a un moment, dans la cour, ou le jeune homme hier soir, voyez-vous? Mais il doit y avoir une profonde sincérité, sachant que le Dieu qui peut vous l'enlever maintenant, avec cette même onction sur vous, peut l'éloigner de vous, voyez-vous? Et le Saint-Esprit m'a parlé un matin à l'aurore et il a dit, va à la plateforme, ou quelque part, emmène ces gens là-bas et fais-les confesser tout ce qu'ils ont fait avant de prier pour eux. Voyez-vous? La sincérité profonde. À moins que le monde ne se repente, il périra. Voyez-vous? Et la confession, c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Une confession honnête. C'est comme la médecine pour la maladie. On peut lire sur la bouteille quelle sorte de remède cela est et quelle maladie il guérit. Mais vous savez, la lecture des indications, je vais l'appliquer comme pour la Bible. Nos écoles, nos séminaires peuvent lire toute la parole. Mais savez-vous qu'en lisant les indications, comment le prendre, cela ne guérit pas le malade, voyez-vous? Il y a un remède, alors il doit être pris. Alors un homme peut dire, je suis un théologien. Maintenant, ne me parlez pas de ceci et de cela, car je connais les Écritures. Je sais que la Bible parle de ceci et de cela. Celui qui entend ma parole, 1 Jean 5, 24, par exemple, celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ou la version du roi Jacques lit pour toujours. Ce qui est éternel, exactement. Il a la vie éternelle parce qu'il a cru. Plusieurs gens disent qu'ils croient. Maintenant, ça est vrai. Les Écritures sont correctes. Je lis la prescription. Je lis ce qu'est la prescription, le contrepoison pour mon péché. Mais puis-je le prendre? Puis-je le croire? Je puis dire, je crois. Mais est-ce que je crois vraiment? C'est la prochaine chose à avoir. Juste le lire et connaître les indications, cela ne guérit pas la maladie. Le problème est, dans notre cas, que nous ne voulons pas prendre ce que le remède dit de faire. Nous avons le remède, mais nous ne voulons pas le prendre. Nous disons que nous le prenons parce que nous pouvons le lire. Mais de vraiment le prendre, nous ne le faisons pas. Voyez-vous? L'évangile, c'est pareil. C'est un remède dans ce cas-ci. Si le patient et le remède peut prouver qu'il guérit le patient, et le patient lit au sujet de la découverte de cette drogue, ils savent chaque once de médecine qu'il y a dedans, ils savent le nom de tous les hommes de science qui ont trouvé cette certaine drogue, comme le vaccin SARS et ainsi de suite. Mais si nous savons toute la parole sur lui et que nous refusons de le prendre, il ne nous aidera pas, voyez-vous. Il ne nous aidera pas. Et ensuite, comme nous disons, mais nous l'avons pris. Et si vous dites que vous l'avez pris, et que le patient ne montre pas les résultats, il ne l'a pas pris. C'est tout. Comment? Si cette horloge sur le mur ne me nuirait pas tant, vous voyez, j'aimerais rester ici puis faire descendre avec force pour nos gens, étant donné que l'Évangile a prouvé ces choses. Ils prétendent qu'ils le prennent, et ils montrent qu'ils ne le prennent pas. Comment une personne peut-elle lire les Écritures sur les petites choses dont je parle, à propos des femmes aux cheveux coupés ou qui portent des shorts? Ainsi de suite comme cela. Comment peuvent-ils s'appeler des chrétiens alors que le remède lui-même dit que c'est différent? Voyez-vous? Comment vous dites, mais j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue. Cela ne veut rien dire. Votre propre vie prouve que vous ne l'avez pas pris. Voyez-vous? Vous dites que vous l'avez pris, mais vous ne l'avez pas pris. Car vous démontrez tous les symptômes que le remède est supposé guérir. Et le remède dans la ligne de l'Évangile est un remède garanti. Il doit l'être. Maintenant, vous voyez, vous devez montrer des résultats. Vous prenez une personne qui dit qu'il l'est. Je suis croyant, je crois. Laissez la lumière de l'évangile les frapper, frères. Ils le prennent tout de suite et ils montreront des résultats, certainement. Vous ne verrez plus cet homme dans les salles de billard. Vous ne le verrez pas avec une cigarette dans sa main. Vous ne le verrez pas en train de boire. Oh non, vous ne le verrez pas flirter avec ses autres femmes. Non, non, non. Peu importe combien de chairs de femelles passeront devant lui, il tournera sa tête vers le ciel et il regardera vers Christ. Qu'est-ce? Cela montre que le remède a fait effet. Et s'il ne fait pas effet, vous dites, bien, je sais que je l'ai pris. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous mourrez, démontrez. Je vous regarde en diagnostiquant votre cas par la Bible, que vous êtes encore mort dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ne pensez pas que ça doit être plus clair. Voyez, vos propres actions prouvent que vous ne l'avez pas pris. Vous pensez que vous l'avez pris. Amen. Vous avez été peut-être très sincère en le faisant, mais vous ne l'avez pas fait. Car si vous l'aviez fait, Dieu a promis qu'il ferait effet sur vous. Et le vieux péché est encore là. La vieille nature d'Adam reste toujours là. La vieille incrédulité. Mais vous vous asseyez et vous essayez de vous faire croire devant vos confrères. Bien, je suis un croyant. Oh, gloire à Dieu, oui, je suis un croyant. Mais voyez-vous, cela ne vous a pas aidé. Peut-être que le patient lui-même n'a jamais été prédestiné pour le remède. Et s'il le fait, s'il le prend, il ne fera jamais effet, c'est vrai. Vous voyez? Mais regardez cette petite femme immorale, quand la lumière l'a frappée, il y avait quelque chose qui gisait là, afin de se soucier de sa condition. Voyez-vous? Et si nous croyons et confessons sincèrement, ce remède à la manière de Dieu fait effet. Dieu a un moyen pourvu pour ces choses. Maintenant, voyez l'homme dire, « Bien, je suis membre de l'Église, cela me suffit. » Ce n'est pas le moyen choisi par Dieu. Le moyen pourvu par Dieu est la repentance, les confessions et montrant les résultats, apportant des fruits dignes de la repentance, démontrant la sincérité. Si vous feriez cela ce matin, vous les gens pour lesquels on doit prier, et vous qui écoutez cette bande à travers le monde, et après que cette bande aura fini d'être jouée, et que le ministre ou la personne qui l'a fait tourner dans les groupes, des assemblées, dans les jeunes, où que vous soyez, vous qui écoutez, que votre confession soit claire premièrement, et ensuite, venez avec rien d'autre dans votre cœur, si ce n'est la foi, et alors, demandez que l'on prie pour vous. Voilà que le remède fera effet. Jésus a dit, « Repentez-vous, chacun de vous. » Je veux dire, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsque vous vous repentez totalement et croyez au Seigneur et que vous êtes baptisés dans le nom de Jésus-Christ, vous faites de Dieu un menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Si Jésus a dit ceci, la dernière commission à son Église, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et vous voyez, ces signes accompagnent les croyants. Et vous venez, et ce croyant vous impose les mains. Et si rien ne se passe, alors il y a quelque chose de faux dans votre croyance, voyez-vous? Le croyant, Dieu a promis un moyen. Nous essayons de nous consoler en disant, je ne suis pas obligé de vous écouter. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Mais si vous êtes prédestiné à la vie éternelle, vous l'écouterez et vous vous réjouirez en lui. C'est votre consolateur. C'est la chose que vous avez recherchée toute votre vie. C'est cette perle dont vous êtes prêt à tout laisser pour l'obtenir. Voyez-vous, vous la voulez parce que vous savez que c'est l'amour de Dieu pour vous. C'est quelque chose qui abolit la question du péché, qui arrête l'incrédulité, qui établit toutes choses pour vous, si vous le voulez. C'est celui qui est vraiment malade, et sait qu'il est malade, qui recherche un médecin, voyez-vous. Pas celui qui n'est pas malade. Il n'en a pas besoin, dit Jésus. Mais ce sont ceux qui sont malades. Si vous réalisez votre condition, alors vous devez faire comme il a dit de faire. Alors cela doit avoir lieu, sinon Dieu vous a dit quelque chose de faux, voyez-vous. Alors plusieurs gens, parfois, au service de guérison, vous ne commencez pas par le fond de la chose. Vous devez avoir une vie nettoyée, vous devez être en condition, vous devez vraiment dire « Oui, je le crois !» Et ça doit venir de votre cœur. Ensuite, vous, personne n'a à vous traiter comme on traite un bébé et dire « Maintenant, mon cher frère, ma chère sœur, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. » Vous êtes un croyant, personne ne peut vous l'enlever. Peu importe ce que les autres disent, ce qu'un conseiller, ce qu'un consolateur, ce qu'un docteur, ce que l'hôpital, ce que le diagnostic dira, vous ne les croyez pas. Vous le savez. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose sur cela. Vous le savez. Maintenant, c'est la chose authentique. Nous avons tellement d'imitations dans toutes ces choses. Mais cela doit être ainsi. Ne vous sentez pas mal. Cela doit être là, il en a toujours été ainsi, et ce sera toujours comme cela. Mais ce matin, je vous dis quelle est la vérité et les faits. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons établir cette vérité, voyez-vous, et leur faire savoir ce qu'est la vérité. Aujourd'hui, nous découvrons que les gens ne veulent pas prendre la voie de Dieu. Dieu a pourvu un moyen pour votre réconfort. Dieu a pourvu un moyen pour toutes ces choses, mais les gens ne le veulent pas. Les gens courent après tant d'autres moyens. Et chaque fois qu'ils ont un autre moyen, sauf celui pourvu par Dieu, ils font descendre la colère de Dieu sur eux chaque fois qu'ils le font. Très bien. Et toutes ces choses dont j'ai parlé nous amènent à ceci. Le monde, tous ceux qui vont vers des accomplissements scientifiques, qui vont après les accomplissements de l'Église, qui vont vers différentes choses. Cela nous a conduit à la fin du monde. Nous sommes à la fin. Il n'y a plus un espoir. Nous sommes sans un espoir de survie. Nous n'avons plus une chance de survie. Maintenant, laissez-moi vous démontrer ceci pour quelques minutes et vous le prouver. Et chacun de vous, vous prenez, sinon vous devriez prendre un journal médical. Vous devriez vous abonner au Reader's Digest et ainsi de suite. Et vous liriez ces accomplissements. Maintenant, pour faire un ministre ici envoie ce message autour du monde, et pour faire une déclaration comme ceci, que nous sommes sans espoir, que nous sommes au-delà de la rédemption, que nous avons passé la ligne entre la rédemption et le jugement, maintenant je dois donner un fondement à la congrégation pour baser cette déclaration. Il doit y avoir une raison si un homme, s'il est censé, et je crois que je le suis, de faire une déclaration comme cela et de dire à sa nation, de dire à sa congrégation, de dire aux gens où ça ira au travers du monde, dans 30 ou 40 différents pays, peut-être autour du monde, et les peintes et les langues, que nous sommes à la fin des temps, c'est à notre avantage de donner une déclaration ou d'en expliquer un peu jusqu'à ce que nous arrivions à notre texte principal pour ce matin. Regardons où la science et l'éducation nous ont conduits. C'est la même chose, ou c'est la chose même que l'homme a acceptée au lieu de la parole de Dieu, une approbation scientifique. Et la science a toujours dû reprendre ce qu'elle a dit. Je lisais il n'y a pas longtemps où un savant français a dit, il y a environ 200 ans ou 300 ans, en roulant une balle autour de la Terre. Il dit, si cette balle a cette vitesse, si le monde réussissait à inventer quelque chose qui les ferait voyager au moins à 30 000 à l'heure, environ 48 kilomètres, quelque chose du genre autour du monde, il avait prouvé scientifiquement que son poids serait soulevé de la Terre par la gravitation. Voyez-vous? Maintenant, pensez-vous que la science retournerait se référer à ce gaillard? Certainement pas. C'est du passé pour eux. Pensons maintenant que nous voulons tous dire. Je veux le prouver scientifiquement. C'est ce que plusieurs personnes dans les dénominations disent aujourd'hui. Ils veulent une preuve scientifique. Bien, je pourrais me retourner et vous dire, prouvez-moi scientifiquement que Dieu est dans votre congrégation. Prouvez-moi n'importe quoi de vrai scientifiquement. Prouvez-le. Qu'est-ce qui est vrai? La vie. Je veux m'en procurer pour 25 cents. Ou laissez-moi vendre tout ce que j'ai afin de recevoir cette partie de la vie. Et la vie est-elle vraie? Si elle ne l'est pas, pourquoi sommes-nous ici? La vie, la foi, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, l'humilité, la patience. La science ne peut toucher cela. Et c'est pourtant la seule vraie chose durable qui est ici. Toute l'armure chrétienne regarde à l'invisible. Mais les sens ne déclarent pas ces choses. Mais elles sont là. C'est la raison pour laquelle cela prend la foi pour y croire. Et elle produit en vous ce que la foi déclare être au-delà. Cela l'amène à vous, la guérison divine, les autres choses. Ils ne peuvent pas prouver ce qui guérit divinement, mais ils savent qu'il y a une guérison divine. Ils ne peuvent pas prouver ce qui sauve du péché, mais ils savent que des gens sont sauvés du péché. Alors, cela ne peut pas être prouvé scientifiquement. Mais c'est scientifiquement dans la manière que Dieu regarde les choses. Maintenant, que nous apporte la science? Maintenant, vous serez peut-être choqués pour un moment. La science nous a apporté la maladie, la mort et les malaises. Maintenant, on ne vous montre qu'un côté de la médaille, mais il y en a deux côtés. Vous dites, la science a inventé ceci, cela ou autre. Bien, nous allons vous accorder ce privilège. Mais regardons l'autre côté. La science nous a apporté la maladie. La science nous a apporté les malaises, la mort. Regardez, l'hybridation scientifique des aliments et des choses a apporté la mort à cette génération. Cela a rendu les gens si mous jusqu'à ce que l'homme et la femme ne soient plus faits que d'un tas de boue. Il n'y a même plus de structure en eux. C'est devenu un groupe de méduses. Ils ne peuvent pas vivre sans l'air conditionné, sinon ils périraient. Ils ne peuvent jouer une partie de balle si l'un d'entre eux est touché quelque part, cela le tue, dans les arènes de boxe et ailleurs aussi. Et c'est si mou jusqu'à ce que les hommes et les femmes aient bien cela les pervertis. Et ils injectent cette hybridation dans le bétail. Et cela est revenu dans l'être humain maintenant, selon la science eux-mêmes. Et ils en font des perversions. Parce que lorsqu'une vache est hybridée ou que la nourriture est hybridée, cette nourriture forme la cellule sanguine et la cellule de sang est votre vie. Voyez-vous qu'est-ce que cela a fait? Et ensuite dans la viande, ils injectent des injections dans la viande et maintenant ça est prouvé que ces injections font effet sur la race humaine. Scientifique. Ils arrosent les champs avec ce DDT et je l'ai vu l'autre jour. Et maintenant nous avons 800 personnes malades dans cette communauté urbaine parce qu'ils ont mangé des œufs. Vous rappelez-vous, il y a plusieurs années, quand nous avions le tout petit bâtiment là, et je prophétisais, et j'ai dit, cela arrivera dans les derniers jours, ne vivez pas dans une vallée, et ne mangez pas d'œufs. C'est cela sur mon livre de prophétie. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose à ce sujet, et je suis allé et je l'ai regardé. Ne mangez pas d'œufs. C'était loin en arrière, en 1933. Les œufs ont quelque chose en eux maintenant. Et j'ai vu où la science dit qu'un homme de plus de 50 ans ne devrait même pas manger un œuf, parce que c'est la chose la plus mauvaise pour le cœur qui ne peut être mangée. Les maladies. Le lait, c'était notre diète la plus balancée ou équilibrée. Et les docteurs vous le diront, éloignez-vous-en. La forme des sinus et toute autre chose. C'est le même être humain qui avait l'habitude de boire et de vivre pour des années et de ne jamais connaître de sinusite, mais l'entrecroisement, ainsi de suite, l'a brisé la structure de l'être humain, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un paquet de boue, une balle de maladie. Qu'est-ce qui a fait cela? La science. Regardez, cela a causé que les gènes entre l'homme et la femme faiblissent, la faiblesse physique de l'être humain au travers des gènes, l'augmentation des enfants spasmodiques est aux environs de 30%, les enfants mongols augmentent, et ces faiblesses de l'entrecroisement des aliments que nous mangeons, cela a causé des problèmes pour la vue, faiblit le corps, cause le cancer, les troubles mentaux, et toutes sortes de maladies reposent sur le corps humain à cause de sa faiblesse. Les scientifiques se détruisent et ils se détournent du plan de Dieu. Il dit que chaque semence donne selon son espèce. Où en sommes-nous? Je pourrais continuer. Notre temps se dissout, mais remarquez ce qui produit cela. La science a porté la mort, la maladie et la destruction. Et j'ai vu l'autre jour, je parlais à mon bon ami, docteur Vell, assis ici. Là, il y a un article disant que les gens étaient tués par la pénicilline. Ce n'est pas vraiment la pénicilline, mais c'est toute cette saleté qu'ils y laissent pénétrer lorsqu'ils fabriquent la pénicilline. C'est pour faire beaucoup d'argent. C'est un arrangement avide. Des médecins donnent cela parfois parce qu'ils ne savent même pas la formule d'une aspirine. Et leur père les envoie pour devenir des spécialistes ou quelque chose d'autre. Et ils ne savent même pas comment guérir un mal de ventre pour un enfant. Mais qu'avons-nous? L'avidité, une force d'attraction ou un petit quelque chose. Ils n'ont quasiment plus rien de ces docteurs de campagne à l'ancienne mode qui avaient l'habitude de venir et de vous parler et de vous consoler et de tout faire. Ils ont mis Dieu hors du portrait parce qu'ils ont suivi leur propre voie. Ils l'ont expliqué pour qu'il soit au dehors, de façon à mettre Dieu hors du portrait. Nous y voilà. C'est ce que nous avons fait par l'entrecroisement. Vous voyez, le corps, ce qui fait une plante en santé, un germe ne peut pratiquement pas la toucher. Ces plantes de couche, ces plantes hybridées que vous devez toujours arroser. Et plusieurs d'entre vous ont entendu mon message sur la religion hybride. Toujours gardez cela arrosé, traitez cela comme un bébé, ainsi de suite. Mais remarquez, la plante de pure race n'a pas besoin de tout cela, d'être arrosée. Elle est originale. Et qu'est-ce qui fait que les maladies viennent dans le corps humain? Le corps est-il? Un précieux ami docteur m'a raconté, mais je ne veux pas dire son nom maintenant, mais il est un bon frère. Il me lisait récemment dans un journal médical un livre dans son bureau où il garde tous ses bons livres et les dernières informations sur la médecine. C'est la faiblesse. Vous remarquez quelqu'un qui est vrai, vous dites que votre corps est abattu et vous prenez un rhume rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est la faiblesse de votre corps qui produit un mucus de vos glandes. Et en cela, les germes froids s'étendent et vous avez un rhume. Mais si ce corps était fort, il rejetterait ce germe de rhume et il ne pourrait même pas le toucher. Alors voyez-vous, quand Dieu a construit l'homme en premier lieu, il était immunisé contre toute maladie, voyez-vous? Mais l'incrédulité et la science et l'éducation ont été les premières choses qui ont conduit l'homme loin de Dieu et qui l'éloigne encore. Regardez ce que font la cigarette et la boisson et ces lieux de striptease et ainsi de suite. Notre génération est en déclin. Vous devez vous demander, je vais faire une déclaration ici. Je n'étais pas prêt à le faire pour commencer, mais je crois que je la ferai quand même. Vous voyez, ils se demandent parfois, ils me disent toujours, frère Branham, qu'est-ce qui vous fait toujours critiquer sur les choses comme cela? Oh, vous ne l'entendez pas. Disons que vous allez à l'église de cet homme, mais je peux emmener mes amis, des femmes, elles ne peuvent même pas s'asseoir confortablement quand vous parlez. Vous êtes toujours en train de les critiquer à propos de leurs cheveux courts et de porter des vêtements destinés à l'homme et toutes ces choses comme cela. Dites-moi, pourquoi faites-vous cela? Maintenant, ceci est peut-être mon dernier message jusqu'à l'été prochain, vous savez. Mais je veux vous le dire. Voici, c'est l'esprit de discernement dans ces derniers jours qui sait que c'est une chose maudite devant Dieu. Je me demande parfois si un ministre a du discernement dans les derniers jours. Le vrai Dieu qui vous dit ici sur la plateforme vos conditions et ce que vous avez fait et ce que vous étiez pour être et ce qu'est votre trouble, ce même esprit au-dedans de vous regarde à l'extérieur et il peut discerner les signes des temps et il peut empêcher cela. Oh, vous ne pourriez même pas l'empêcher de crier. C'est l'esprit de discernement parce que le Saint-Esprit lui-même dit que cette chose est le péché et quiconque y participe périra. Et ensuite, comment puis-je être justifié aux yeux de Dieu, voir mes sœurs, mes frères dans cette condition si je ne crie pas contre cela? Même s'ils sont fâchés contre moi, je dois quand même crier contre cela. C'est le discernement. Parfois, ils diffèrent la parole et ainsi de suite. C'est un manque de discernement. Venez l'envisager avec la parole, voyez-vous? Nous savons que c'est vrai. Bien, c'est reconnu pour être la vérité. C'est le discernement dans les derniers jours. Maintenant, nous voyons la science. Mais je n'irai pas plus loin sur cela, car mon temps s'écoule. Maintenant, prenons un second regard sur l'éducation. Voyons ce qu'ils ont fait, voyez-vous? Maintenant, nous avons deux églises au large. Maintenant, nous réalisons que c'était cela, c'est la raison, les raisonnements communs qui ont commencé à faire rouler la base du péché en premier lieu. Raisonner quoi? Raisonner contre la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez, cela est établi, c'est tout. Et il les a fortifiés contre les ennemis derrière sa parole. Mais quand Ève écouta le raisonnement de Satan, vous voyez, la culture, la compréhension, l'éducation, l'avancement ou le progrès, voyez-vous, elle est sortie par derrière, elle écouta les raisonnements de Satan, et elle a fait la chose que Dieu a dit de ne pas faire. Et si un raisonnement, si d'écouter un raisonnement contre la parole a causé tout ce chaos, encore un raisonnement contre la parole ne vous retournera pas au même endroit. Parce que ce serait insensé que Dieu ramène l'homme sur la même base d'où il l'a renvoyé. Voyez-vous? Vous devez venir au sang répandu du Christ. Votre dénomination ne marchera pas et vos raisonnements ne marcheront plus. C'est le sang et la naissance. Et il produit en vous une nouvelle créature, Christ. Et vous vivez selon le mode de Christ parce que la toxine que vous prenez montre qu'il tue. Le péché d'incrédulité contre tout, sauf la parole de Dieu. L'éducation nous donne. Nous avons deux églises en main ce matin. L'une est l'église de la Pentecôte par le Saint-Esprit, et la seconde est l'église catholique romaine qui fut organisée à Nicée, Rome. L'une a une naissance spirituelle, et l'autre ne connaît qu'une qualité de membre intellectuel. De cette église viennent tous les protestants, et toutes les dénominations, c'était la première dénomination, toutes les dénominations viennent de celle-là, et elles sont parentes avec celle-là. Apocalypse 17 le dit, elle était une prostituée et la mère de prostituées, c'est vrai. Alors il n'y a pas, la marmite ne peut pas appeler la bouilloire en lui disant qu'elle est pleine de graisse, non. Parce que c'est tout juste une seule chose. Cela s'est organisé. C'est fini. C'est à Rome. Peu importe ce que c'est fini. Dans la Bible, nous venons de parcourir ces âges de l'Église pour le prouver. Elle est basée sur le discernement spirituel. Et l'autre est basée sur l'éducation et la conception intellectuelle. Maintenant, ça nous replace dans le jardin d'Éden. À nouveau, au même endroit, la femme, l'Église, était celle qui a écouté, pas Adam, mais la femme. Maintenant, ils veulent être l'Église mère. Eh bien, allez-y, c'est exactement vrai. Il n'y a rien en dehors du temps. Ils font leur propre confession eux-mêmes, vous voyez. Nous retournons à la même chose, à ne pas croire la parole de Dieu. À Nicée, à Rome, quand la question est venue sur le baptême d'eau, sur les autres choses comme ça, sur le baptême du Saint-Esprit, les évêques ont organisé ce qui fut appelé l'Église catholique romaine. Un Romain, quelqu'un qui était royal, ainsi elle fut appelée. J'ai terminé hier d'en prendre l'histoire et de l'écouter. Et je regarde cela à nouveau maintenant. Et ce devait être seulement pour Rome. Rome était l'Église royale. Les autres étaient vues des églises sœurs pour elle. Et elle seule était appelée catholique. Notre Église est également appelée catholique. L'Église universelle. C'est-à-dire une croyance universelle de tous les croyants. Mais une église est née de l'Esprit de Dieu, elle a le Saint-Esprit en elle, elle le prouve par sa vie, par sa doctrine, par son action, que le Saint-Esprit est là, parce que le Consolateur, c'est Christ, le Christ promis, travaillant dans son église, faisant la même chose qu'il a faite au commencement. C'est comme cela que travaille la toxine du salut de Christ au commencement. Et c'est la manière dont il travaille aujourd'hui, et ça produit la même chose. L'autre est une conception intellectuelle d'une dénomination faite par un groupe d'hommes qui a une forme de piété, comme le prophète nous l'a dit, mais qui renie cette vérité de puissance. Maintenant, c'est aussi clair que je puis le dire. Maintenant, il y a deux églises. Une est née à Nicée, l'autre est née à la Pentecôte. Et l'une a toujours été contre l'autre. Nous sommes passés à travers les âges de l'Église pour le prouver. L'une est contre l'autre. L'une, c'est une belle Église, solennelle et intellectuelle, avec d'excellents savants et ainsi de suite. Et l'autre, elle est classée comme un groupe de polyvoleurs. Ils étaient au début des pêcheurs illettrés, des ivrognes, et c'est la même chose aujourd'hui. Cela est encore classé dans la même catégorie. L'une est scientifique, l'autre a un discernement spirituel de la parole. L'une est arrangée scientifiquement, ce que disent les groupes d'hommes, les évêques intellectuels, et l'autre est absolument née de l'Esprit de Dieu, et vit par l'Esprit de Dieu, et remplit et fait passer les paroles que Dieu a promises. Cela montre quelle toxine vous prenez. Avez-vous une toxine intellectuelle? Avez-vous une toxine intellectuelle? Ou avez-vous la toxine du Saint-Esprit? Voyez-vous? Très bien. Oh, cette subtilité de Satan. Comme il peut prendre ce portrait intellectuellement, il peut prendre un homme qui n'est pas né de l'Esprit de Dieu et juste tourné en rond. Et il n'a aucun moyen intellectuellement de les convaincre du contraire. Il n'y a pas de moyen. C'est un discernement par la foi. Voyez-vous, un discernement. Nous voyons ce que dit la parole et nous le croyons. Ensuite, frère Branham, ils disent qu'ils ont le discernement. Alors, laissez le Saint-Esprit produire exactement ce qu'il a promis de produire. Et nous le croirons, voyez-vous. En voilà l'évidence. Comment a agi la toxine quand il frappa la personne? Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, dit-il. Si la toxine l'a frappé, alors c'est bien, voyez-vous. Alors là, il nous y amène. Cela nous amène, en terminant pour les prochaines minutes, cela nous amène de Abel et Caïn au jugement du temps de Noé, de ce temps venant des jours de Noé. Maintenant, avant d'avoir la ligne de prière, écoutez attentivement pendant que je cours les Écritures pour un petit texte. Nous découvrons qu'après que le monde ait pris sa conception intellectuelle de la parole, ces hommes devinrent grands, des hommes renommés. La Bible dit, Genèse chapitre 6, verset 4, des hommes renommés, courant après de très belles femmes et des choses que nous avons dans le monde entier. Nous venons juste de le voir dans la lumière éclatante rouge. Nous en avons parlé l'autre soir sur comment les femmes seraient plus belles dans les derniers jours, comment les hommes renommés, comment le scandale est en Angleterre, aux États-Unis, et il y en aura encore d'autres découverts l'un de ces jours, voyez-vous. Vous ne connaissez pas toutes ces prostituées et tout ce qui les concerne, voyez-vous. Savez-vous qu'il y a des serveuses 3 fois plus qu'il n'y a d'étudiantes à l'école ou au collège? 3 contre 1. Des sommelières de plus que les étudiantes d'école ou de collège. Savez-vous qu'un certain pourcent, je ne puis le dire maintenant car je ne l'ai juste pas devant moi, je ne l'ai pas écrit, mais pratiquement 1/3 des étudiants d'école secondaire de la nation, il a été prouvé qu'ils ont été immoraux, ou des jeunes filles qu'elles devraient aller à la maison pour être mères. Savez-vous que prendre la pénicilline pour combattre les maladies vénériennes a seulement établi une corruption parmi les gens? Et cette chose n'est pas morte. Mais malgré tout, Dieu a dit qu'il visiterait la 4e génération. Cela a causé tous ces Mongoliens et toutes ces autres choses. Et les enfants sont, oh, comme le péché est subtil. Comme ces gens, ce ministre, se tiendront là et ils ne prêchent pas contre ces stripteaseuses dans la rue. Ils les laissent chanter dans le cœur de l'église. Et toutes choses vont comme cela. Et c'est cette chose qui envoie notre race humaine en enfer. C'est vrai. Alors maintenant, nous découvrons qu'après que Dieu en a eu assez, et je crois qu'il en a assez aujourd'hui. Maintenant, j'arrive à mon texte. J'ai une drôle de manière d'apporter un... J'aime à montrer une série de choses et ensuite d'arriver à mon texte. Maintenant, nous découvrons que dans les jours de Noé, quand Dieu allait juger la terre, quand elle devint comme elle est maintenant, parce que Jésus l'a dit, se souciait-il? Certainement qu'il se souciait. Il se soucia pourquoi? Maintenant, après qu'il eut déjà su que le jugement allait venir et qu'il avait déjà prononcé le jugement, il se souciait de ceux qui se souciaient de lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il se soucie de ceux qui veulent bien se soucier. Et nous découvrons qu'il leur envoyait un prophète pour les diriger, pour diriger son peuple élu, afin qu'il y ait un chemin pourvu pour échapper. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, nous trouvons que Dieu se soucie de son peuple. Il y a une partie non enregistrée sur la bande note de l'éditeur. Nous sommes à la fin. Nous voyons que nous sommes à la fin. Il n'y a pas de moyen pour bâtir sur cette corruption. Comment peut-on construire une ville sur les ruines charbonneuses de Sodome et Gomorre? Comment peut-on le faire? Il ne reste qu'un phénix, et c'est la venue du Seigneur Jésus. Oh, une purification à travers la période de tribulation pour ramener une restauration du monde pour un peuple qui est juste aux yeux de Dieu et qui vit par sa parole. Remarquez, il se souciait de ceux qui se souciaient d'échapper dans les jours de Noé. Et il leur envoya un prophète. Et ce prophète les dirigea dans le chemin pourvu par Dieu. Maintenant, c'est de cette manière que Dieu fait les choses. Voyez-vous, Dieu a parlé à Noé, qui était la parole. Ce n'était pas la parole écrite alors. Et il dit à Noé de préparer une arche pour le salut des gens et pour avertir tous les gens qu'il y avait un chemin de salut. Et cet homme était un prophète confirmé qui leur a prouvé le chemin pour échapper. Notez, les humbles et les sincères ont entendu cet homme et ils l'ont cru et ils ont échappé. Ils ont échappé à quoi? La mort de ce monde du péché qui fut détruit dans ce jour. Ils ont échappé du chemin de la mort qui reposait pour le monde entier. Dieu se soucie tant. Ô Dieu, aide afin que ceci aille au fond de nos cœurs maintenant, avant que nous allions dans la ligne de prière. Dieu se soucie. Aujourd'hui, il regarde le monde, et il a appelé, et appelé, et appelé, et ils ont repoussé, ils l'ont rejeté. Et il y avait une chance de repentance au début. Quand Dieu a dit à Ésaïe de monter et de dire au roi Ézéchias qu'il allait mourir, il se repentit, il y avait de la miséricorde. Et quand Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive et de prêcher, dans 40 jours il détruirait la ville, ils ont crié pour la miséricorde et il y eut une repentance. Mais quand il le rejette, il ne reste plus que le jugement et la nation a rejeté Christ. Ils ont manqué de répondre à son appel, alors il ne reste plus que de faire face au jugement. Maintenant, Dieu se soucie-t-il de ceux qui se sont repentis? A-t-il fait un chemin pour eux? Maintenant, nous allons voir ce qu'il a fait dans les temps passés. Dans le temps de Noé, il se souciait. Il a envoyé un prophète. Il a tracé un chemin. Il leur montra le chemin. Il leur montra un chemin pour échapper. Et ils ont échappé au jugement. Il se souciait aussi d'eux. Nous découvrons qu'il les emmena en un lieu où dans les derniers jours, avant que le grand jugement vienne, il s'est tellement soucié d'eux jusqu'à ce qu'il ait préparé un chemin qu'il pourrait prendre et qu'il les libérerait de tous les jugements qui allaient venir. Maintenant, il a fait cela aux élus. Maintenant, nous savons cela. Il a fait cela aux élus, seulement pour les élus. Ce sont eux qui avaient accepté ce germe de vie. Ce sont eux qui étaient prédestinés à le voir. C'était eux. Si nous croyons la Bible, nous devons croire à la prédestination. Voyez-vous, c'est vrai. Pas que c'est la volonté de Dieu qu'aucun périsse, mais il savait qu'il le recevrait et qu'il ne le recevrait pas. Il se souciait aussi de son peuple élu dans les jours de la destruction d'Égypte. Ils étaient là-bas en Égypte et ils étaient devenus des esclaves. Et dans les jours de Moïse, il se souciait du peuple. Qui leur envoya-t-il? Un prophète encore. Est-ce vrai? Et il sépara son peuple du monde incroyant du jugement à venir en ce jour-là. L'a-t-il fait? Il se souciait quand l'Égypte avait amoncelé leurs péchés si haut jusqu'à ce que Dieu devait envoyer le jugement parce qu'il l'avait déjà dit à Abraham. Et je m'occuperai de cette génération. Alors au lieu d'envoyer la colère sur eux tous, il leur envoya ses soins. Il envoya son consolateur, il leur envoya sa parole, et il envoie toujours sa parole par ses prophètes, comme il l'a fait du temps de Noé. Et il fait la même chose au jour de Noé et au jour de Moïse. Nous découvrons qu'il a fait la même chose. Il leur envoya son prophète. Et ils se sont séparés de l'incrédulité. Maintenant, c'est le genre de ceux qui sortent. C'est cette sorte-là qui le croit. Ils ont cru Moïse. Et il était aux yeux de Pharaon, il était un fanatique, il était un magicien, il était un hypocrite, il était quelque chose de terrible. Mais pour les gens élus qui sont sortis selon la parole de Dieu, je les ferai sortir. Il était un prophète pour eux. Il était le chemin pourvu par Dieu. Et il a aussi remarqué, ils l'ont cru et ils ont échappé au jugement de ce jour. Ils ont cru Moïse. Et il dit, il se souciait aussi pour eux afin de les faire sortir. Et il se souciait d'eux dans leur séjour après qu'ils soient sortis. Amen. Comme ce fut ainsi dans le physique, ceci est dans le domaine spirituel. Il se souciait. Pourquoi? Il a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin pendant le voyage. Le fit-il? Il les a guéris lorsqu'ils furent malades. Il a procuré la guérison. Il a procuré une voie pour leur maladie. Il a préparé un serpent d'airain qu'ils pouvaient regarder. Ils pouvaient regarder au serpent d'airain un symbole du péché et être guéri. Il les a nourris pendant le voyage. Là où il n'y avait pas de pain, il fit pleuvoir le pain du ciel. Il les a nourris. Pas seulement cela, il les a vêtus, nous montrant qu'il se soucie pour ceux qui se soucient. Ah, s'ils sont prêts à se confesser et à se repentir et croire et accepter, Dieu se soucie. Mais vous devez vous soucier premièrement. Vous devez accepter ce qu'il vous a envoyé. Il se soucie tellement pour eux qu'ils étaient sûrs qu'il n'y aurait pas d'erreur. Lui, son prophète, confirmé par un signe, une colonne de feu, afin de faire voir aux gens que ce n'était pas seulement un homme qui marchait là, que c'était Dieu au-dessus de lui, c'était lui qui guidait le chemin. Dieu se soucie des gens qui se soucient. Dieu se soucie pour ceux qui se soucient de lui. Alors, il a confirmé cet homme, il a prouvé qu'il était le serviteur de Dieu en leur envoyant la colonne de feu pour les conduire à la terre promise même. Et il savait qu'aussi longtemps que le signe de ce feu, une colonne de nuée et de feu les suivait, il dit qu'il n'enlèverait pas la colonne de feu et de nuée. Il était avec eux pour des années et des années dans le désert, 40 ans. Est-ce vrai? La colonne de feu les a conduits. C'est notre 33e année. En laissant 7 années de plus, cela typifierait exactement la même chose. Très bien. Une colonne de feu les conduisit. Ils se souciaient d'eux. Ils se souciaient tellement d'eux, jusqu'à ce qu'il leur fît savoir que ce n'était pas une chose scientifique, ce n'était pas un échec, mais il a confirmé le message, le prouvant. Et il s'est tellement soucié pour une femme de l'extérieur, pas une israélite. Elle n'appartenait pas au groupe, elle était de l'extérieur. Presbytérienne, méthodiste ou autre. Elle était de l'autre côté. Mais quand elle entendit, son nom était Rahab, elle vivait, elle était une prostituée. Mais quand elle entendit comment Dieu était dans la colonne de feu et les conduisait, elle dit, elle cria à Dieu. Elle témoignait de la miséricorde pour les espions qui étaient venus pour scruter la terre. Et parce qu'elle se souciait d'elle et de ses gens, Dieu se soucia aussi d'elle. Tellement que cette prostituée donna sa vie à Christ pour la cause, parce qu'elle avait vu le signe du Dieu surnaturel. Elle servait bien ses dieux dans sa propre dénomination. Mais quand elle vit ce grand signe surnaturel, elle cria, elle demanda pour de la miséricorde, et de la miséricorde pour sa famille. Et Dieu s'est tellement soucié pour elle, que toute la ville s'écroula, les uns par-dessus les autres, mais il n'y a pas une pierre qui touche à sa maison. Il se soucie, même si elle était une étrangère, elle n'était pas du groupe à ce moment-là, mais il se soucia. Il se soucie toujours. Il se soucia pour Élie, alors que lui et lui seul se souciaient pour Dieu. Alléluia! Voilà où cela vient. Voilà où nous arrivons maintenant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre qui parle aux anciens élus, aux anciens et ceux de l'Église, il dit, donnez-lui tous vos soucis, car il se soucie de vous. Mettez tout là, car vous êtes purs devant Dieu. Vous marchez comme des serviteurs de Dieu. Dieu se soucia d'Élie, car Élie se souciait pour Dieu. Tous les autres prédicateurs avaient perdu leur vision de ce jour. Ils avaient perdu la volonté de Dieu et l'amour de sa parole, et tout était devenu moderne. Mais peu importe comment Jézabel les avait, la première dame du pays, peu importe combien ses autres prédicateurs laissaient ses femmes agir et faire, Élie cria contre cela dans le nom du Seigneur. Il se souciait de ce que Dieu dit, et Dieu se soucia pour ce qu'Élie a dit. En ce temps-là, car il dit, c'est la parole du Seigneur. Dieu se soucie quand vous vous souciez. Mais vous devez vous soucier premièrement. Oui, remarquez qu'il se souciait lorsqu'il appela Élie par sa parole en dehors des dénominations. Cela avait l'air comme s'il devait mourir de faim, car il n'aurait pas de dîme, pas d'offrande qui lui reviendrait. Mais il se souciait tant pour Élie qu'il ne le laissa pas mourir de faim pendant le temps qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il commanda au corbeau de le nourrir. Il se soucia pour Élie, car Élie se soucia de lui, et il est la parole. Il se souciait pour Daniel, quand Daniel se soucia pour la parole de Dieu assez. Assez pour prier sincèrement, peu importe ce que disait le roi. Je ne veux plus que vous fassiez cela. Élie a ouvert grandement les volets, et il regarda vers Jérusalem, et il pria. Élie se souciait pour Dieu, et Dieu se soucia d'Élie. Daniel se soucia pour la parole de Dieu, et Dieu se soucia pour Daniel. Il envoya une colonne de feu qui a effrayé le lion, et celui-ci fut hors de lui, et il resta là toute la nuit. Dieu se soucia, car Daniel se soucia. Oui, monsieur, il a prié sincèrement, sachant que cela voudrait dire qu'il serait jeté dans la fosse au lion s'il désobéissait aux ordres dénominationnels. Mais il s'agenouilla près de la fenêtre, ne craignant pas ce que l'homme dit. Il a ouvert les fenêtres, c'était un commandement de Dieu, et il pria sincèrement et honnêtement à son Dieu chaque jour. Il se soucia pour Dieu et pour son commandement, et Dieu se tourna et se soucia pour Daniel et son commandement, pour son maintien. Daniel se soucia pour Dieu et sa parole, et Dieu se soucia pour Daniel et pour son maintien pour la parole. Il le fera chaque fois. Amen. Il se souciait pour les enfants hébreux quand ils respectèrent sincèrement et qu'ils se souciaient pour la foi qui leur fut envoyée, la parole de Dieu. Il se souciait tant pour eux jusqu'à ce qu'ils fassent résonner la trompette. Ils avaient un commandement de Dieu, ne sonnez pas de la trompette devant un dieu païen ou devant des statues, ne vous prosternez pas et ne les adorez pas. C'était le commandement. Et quand ils sonnèrent la trompette et qu'ils dirent, nous jetterons dans la fournaise ceux qui ne le feront pas, ils se soucièrent tant jusqu'à ce qu'ils tournèrent leur dos à la statue. C'est vrai. Mais Dieu se souciait tant pour eux. Et quand la chaleur commença, il envoya le quatrième homme en bas dans la fournaise embrasée. Et ils gardèrent leur sang-froid. Il se soucia parce qu'il se souciait. Si vous voulez tenir un credo, Dieu ne se soucie pas de ce que vous faites. Si vous voulez faire cela, il ne se souciera jamais de vous parce que vous faites ce que l'homme dit. Mais si vous tenez la parole de Dieu et que votre confession soit sincère et vraie, et si vous croyez que Dieu est un guérisseur, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il se souciera de vous. Il se soucie en ce temps. Il se souciait pour les enfants hébreux et il leur envoya un quatrième homme pour les délivrer, qui était Christ. Nous savons cela. Et quand le lépreux cria « Seigneur », 10 lépreux sortirent et ont crié sincèrement « Seigneur, aie pitié de nous ». Il se soucia assez pour leurs propres besoins. Il y en avait un qui pouvait alors se soucier d'eux. Il se soucia pour le lépreux parce que le lépreux se soucia de faire sa confession, de l'appeler Seigneur. Il se souciait quand le centurion a eu du souci pour lui-même, afin même d'envoyer demander de l'aide à Jésus. Et quand le centurion montra par sa foi qu'il avait renoncé aux idoles de Rome, il se soucia assez par un témoignage public pour l'envoyer chercher pour qu'il vienne guérir son fils. Jésus se soucia assez pour aller le guérir. Il se soucia assez pour aller le guérir. Il se soucia quand vous vous souciez. Vous devez vous soucier premièrement. Il se soucie. Il se soucie quand Jaïrus se soucia assez pour Jésus. Il était un croyant secret. Il croyait qu'il avait raison. Mais à cause de son droit dénominationnel, il ne pouvait pas sortir et le confesser. Mais quand sa fille tomba malade et qu'elle mourut, Jaïrus savait, regardant la mort de sa fille, ou pour exprimer son souci, il se soucia assez pour dénoncer les incroyants qui étaient autour de lui. Et il mit ce petit chapeau de prédicateur, de ministre, il alla trouver Jésus. Et quand Jaïrus a montré qu'il se soucia assez pour venir, alors il alla pour ressusciter des morts la fille de Jaïrus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il se soucie. Peu importe ce que c'est, il se soucie. Il se soucia tellement, lorsqu'il n'y avait même pas un commandement, rien ne parlait de cela. Il ne l'avait jamais mentionné, mais il se soucia parce que la petite femme ne pouvait pas venir dans la ligne de prière. Elle dit, « Oh, s'il pouvait toucher le bord de son vêtement, je le crois. » Il se soucia pour sa foi en cela, à tel point qu'il se tourna, l'appela de l'auditoire et lui dit que sa foi l'avait guéri. Il se soucia parce que la femme se soucia. Il se soucia quand le névrosé appelé Légion a eu assez de soucis sous l'opposition pour se glisser de dessous les pierres tombales des démons et d'aller rencontrer Jésus et de se jeter à ses pieds. Quand Légion, les démons ne seraient jamais venus si Légion ne s'était pas poussé un chemin pour les rencontrer. Et quand il se soucia assez pour faire cet effort, cet appui de sa croyance, Jésus se soucia assez pour chasser cette légion de démons de lui. Et sa condition névrosée était partie. Il se soucie quand vous vous souciez. Oui, monsieur, il se soucie quand vous vous souciez. Et maintenant, quand l'homme aveugle crie à la porte de Jéricho, « Oh, Jésus !» étant un juif orthodoxe, avec une bonne position dans la synagogue. Mais quand il dit, « Quel est ce bruit qui passe ?» Ils ont dit, « Jésus de Nazareth passe, un prophète. » Il dit, « Jésus, fils de David !» Oh, quelle réprimande ! Ce fut pour son pasteur et ses prêtres qui se tenaient tout près de là. Mais il ne se souciait pas de ce que son pasteur ou de ce que son prêtre allait dire. Il était intéressé, il se soucia assez pour recouvrer sa vue. Alors il s'écria, et quand l'aveugle était prêt et se soucia assez pour s'écrier, Jésus se soucia assez pour le guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il se soucie quand vous vous souciez en premier. Vous devez prouver que vous vous souciez de lui. Il se souciait tellement, alors, quand une femme qui vivait avec six hommes l'a identifié, est su et reconnu son signe messianique de discernement, il se soucia assez jusqu'à ce qu'il lui pardonne tous ses péchés et lui donna des eaux qui n'étaient pas venues pour puiser car elle le reconnut. Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Et lorsqu'il lui dit ce qu'elle avait, elle attendait ce jour à venir, mais elle était dans ce groupe de l'église. Elle n'avait pas la chance de le faire. Mais quand elle vit un homme qui pouvait lui dire ce qui n'allait pas avec elle, elle dit, « Seigneur, je crois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie viendra, il fera toutes ces choses. » Et il dit, « Je le suis. » Oh, c'en était assez. Elle se soucia. Elle laissa sa cruche d'eau. Elle monta dans la ville. Elle dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Elle était un peu comme Rahab. Elle se soucia tellement qu'elle alarma toute la ville. Elle se soucia car quelque chose était arrivé. L'écriture confirmée avait été accomplie, assurée. Elle se soucia. Elle ne se souciait pas de ce que disaient les hommes ou les autres. Elle l'avait vu. Elle était là quand cela arriva. Elle se soucia. Elle se soucia pour son peuple jusqu'à ce qu'elle l'ait dit à tout le monde. Et cela a causé que toute la ville crut à Jésus-Christ. Elle se soucia et il se soucia. Certainement, il l'a fait. Et Jésus se soucia assez pour le message d'aujourd'hui afin d'accomplir ces choses qu'il avait dites jusqu'à ce qu'il mourût et ressuscita encore pour le envoyer par le Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous montrer que son ministère aujourd'hui est vivant. Il se soucie assez. Pourquoi ne vous souciez-vous pas? C'est la chose. Souciez-vous donc. Il mourut pour le ministère. Il mourut afin que le Saint-Esprit puisse être ici en ce jour pour démontrer ces choses. Il se souciait pour vous. Il se souciait de la porter ici même. Il se souciait de faire cette déclaration. Il se souciait parce qu'il vous aime. Il se soucie assez pour le faire et pour envoyer le Saint-Esprit ici même et produire ce ministère aujourd'hui. C'est comme cela qu'il a prouvé qu'il se souciait en ce jour, car il est venu confirmer ce que Dieu a dit qu'il serait. C'est la raison pour laquelle la femme au puits le reconnut. Elle dit, « Je sais quand le Messie viendra, il est un prophète. Quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes ces choses. » Voyez-vous, il se soucia tellement de la parole de Dieu pour la confirmer à cette femme. Maintenant, il envoya le Saint-Esprit afin qu'en ce jour de conception intellectuelle, il prouve par le même Saint-Esprit au travers de nous qu'il est encore le Messie. Il le prouve de la même manière. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant la question est, vous souciez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est ici, cela a été prouvé maintes et maintes fois. Vous souciez-vous assez pour y croire? Vous souciez-vous assez pour confesser vos péchés que vous avez tort? Confessez votre incrédulité et acceptez-le. Vous souciez-vous assez pour l'accepter? Il se soucia assez pour mourir, pour ressusciter à nouveau et pour vous l'apporter. Mais vous souciez-vous assez pour l'accepter? Je crois que cela est complètement prouvé du temps de Noé à partir de la Genèse et tout au travers. Nous n'avons pas le temps d'aller voir cela, mais vous voyez qu'il se soucie et il est mort afin que vous vous souciez, afin que vous ayez un moyen. Et il apporta ce moyen. Il a dit exactement ce que ce moyen ferait et cela s'est fait. Et maintenant, le voici aujourd'hui, nous montrant que c'est la vérité. Maintenant, dans cette heure mauvaise dans laquelle nous vivons, vous souciez-vous assez de lui, de tout votre cœur, pour le croire? Que vous atteigniez la ligne de prière ou quoi que ce soit, ce n'est pas cela. Vous souciez-vous. Déchargez vos soucis sur lui. Il se soucie de vous. Soyez sincères. Souciez-vous assez pour être sincères, car il a prouvé par sa parole confirmée qu'il se soucie. Il a promis de l'envoyer. Il l'a fait. Il a promis dans la parole. Et le voici. Il se soucie. Maintenant, qu'en est-il de vous? C'est vous qui devez vous soucier à présent. Il se soucia tant, il se soucia assez pour conquérir chaque ennemi pour vous, que tout ce que vous avez à faire, c'est d'être sincère et de le croire. Il a vaincu la mort. La mort, mais ce n'est pas à moi de la vaincre. Elle est déjà vaincue. La maladie, ce n'est pas à moi de la vaincre. Elle n'est même pas pour le Christ. Le Christ l'a déjà vaincue. Elle est déjà vaincue. Je dois juste assez me soucier pour y croire. Avez-vous peur de ce qu'un autre vous aurait dit? Avez-vous peur du diagnostic du médecin? Avez-vous peur de ce que l'Église vous dira? Avez-vous peur de vous tenir orteil à orteil avec le diable? Dites, j'ai confessé mes péchés. J'ai tout mis de côté. J'ai cru chaque parole. Et me voici, Seigneur, crée en moi un souci pour toi. Je pense à ce gracieux cantique, il se soucie pour vous, que ce soit le soleil ou les nuées, il se soucie pour vous. Inclinons nos têtes maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin. Il se soucie pour vous, il se soucie pour vous, que ce soit le soleil ou les nuées, il se soucie pour vous. Chantons-lui cela avec nos têtes inclinées et aussi nos cœurs. Il se soucie pour vous. Regardons à tout ce qu'il a fait pour nous. Il se soucie pour vous. Que ce soit le soleil ou les nuées, il se soucie pour vous. Et il se soucie. Oh, maintenant, si vous vous souciez, levez votre main pendant que vous chantez cela. Il se soucie pour vous. Que ce soit le soleil ou les nuées, il se soucie pour vous. Ô Père Céleste, En ce temps, dans cette heure tardive du jour, nous nous confessons du profond de notre cœur que nous savons par la parole maintenant que tu t'es toujours soucié pour les tiens. Mais le trouble est, Seigneur, nous soucions-nous. Voulons-nous seulement recevoir une éducation et dire, eh bien, j'ai un doctorat en théologie ou en philosophie? Cela, c'est connaître la prescription, mais ce n'est pas l'apprendre. Ô Dieu, je prie aujourd'hui que chacun de nous veuille prendre les souffrances de Christ dans notre propre cœur, de prendre ses souffrances sur nous, pour réaliser que nous devons souffrir aussi l'opprobre de son nom, que nous devons souffrir, et que nous soyons comme les disciples d'autrefois, et retournés, se réjouissant que nous ayons été jugés dignes de souffrir la honte de son nom. Accorde-leur, Père, je vais prier pour les malades, Seigneur, leur imposant les mains. Ils ont les mains levées, plusieurs parmi eux. Plusieurs vont venir afin que l'on prie pour eux. Ils tiennent des cartes de prière. Et il y en a ici qui ne sont pas arrivés à temps pour recevoir une carte de prière. Mais ils vont croire, Seigneur. Ils peuvent lever leurs mains. À mon avis, toute l'assemblée lève la main. Plusieurs sont malades. Et voici ces mouchoirs qui reposent ici. Et sentant la divine présence par la parole ointe, guéris-les, Seigneur. Accorde que leur requête soit répondue. Et maintenant, des mouchoirs à l'auditoire, à des êtres humains qui sont assis là, souffrant. Oh, la présence du Seigneur. Qu'ils viennent, Père, et qu'ils les guérissent tous. L'accorderas-tu ce matin, dans ta grâce divine, quand nous nous confesserons, Seigneur? Moi, ton serviteur, je confesse mon incapacité. Je n'ai même pas une chose, Seigneur, que je puisse lui présenter comme un mérite. Nous sommes indignes. Aucun de nous ne pouvons le faire, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes pour les choses que nous allons demander. Mais, Seigneur, nous savons que Jésus est monté dans la gloire. Et là, il prépare une place afin que nous y allions et afin qu'il nous reçoive pour lui-même. Et il nous a dit qu'il nous enverrait un consolateur qui serait le Saint-Esprit et qu'il ferait son œuvre et qu'il demeurerait avec nous pour toujours. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens de nouveau sur nous ce matin et confirme ta présence. Seigneur, de la même manière que tu l'as fait quand tu as marché sur la terre et que cet auditoire sache que tu es ici dans ces derniers jours pour confirmer ta parole et pour prouver que comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Seigneur, c'est pour ton honneur et ta gloire que nous demandons ceci, comme nous nous soumettons à toi avec notre confession. Purifie-nous par ton sang, lave-nous par l'eau de ta parole, et purifie-nous dans ton sang, et présente-nous, Seigneur, comme des exemples, comme Pierre l'a dit dans la lecture du texte ce matin au monde incroyant, car nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à notre sœur maintenant de venir au piano juste un moment. Nous sommes un peu en retard ce matin, mais oh, je ne viens pas ici très souvent. Ayez juste de la patience avec nous et que tout le monde reste juste quelques minutes alors que nous allons prier pour tout le monde. Billy Paul, où est-il? Est-il ici? Où es-tu? As-tu donné des cartes de prière? Qu'est-ce que c'était? B. 1 à 100. Prenons juste quelques-unes des cartes B et voyons s'il nous donnera le discernement. Comment est-ce cela? Pour voir s'il est ici avec nous. Faites juste cela. Demandez-lui simplement. Et croyez-vous qu'il le fera? J'ai prêché et j'étais loin, mais maintenant je m'en suis éloigné, voyez-vous? Alors que les gens se lèvent. Eh bien, nous allons prier pour eux de toute manière. Mais commençons avec le numéro 1. Qui a la carte B numéro 1. Levez-vous, celui qui a une carte de prière. Non, je vais les emmener juste autour ici. Il sort de l'allée et il descend. Mais qui a le B numéro 1? Qui a la carte de prière? Le numéro B numéro 1. Vous dites qu'elle n'est pas dans l'édifice? D'accord, nous commencerons. Oh, pardon, madame. Très bien. D'accord. B numéro 1. Ensuite, nous avons déjà commencé à partir de 1 que B numéro 2 vienne. Qui l'a? Voulez-vous lever votre main afin que nous la voyions? Venez ici, madame, juste ici. 3. Qui a le numéro 3? Maintenant, formons notre ligne tout le long du mur ou par l'arrière quelque part. Bon, très bien. La carte de prière numéro 3. Qui viendra? Est-ce la dame qui vient ici? Oh, je n'ai pas vu votre main, excusez-moi, sœur. Numéro 4. Qui a la carte de prière numéro 4? Voulez-vous lever votre main afin que je voie qui vous êtes? L'homme derrière là, le frère de couleur, voulez-vous venir juste ici? Monsieur, le numéro 4. Numéro 5. Qui a le numéro 5? Le jeune homme là derrière, auriez-vous l'obligeance de venir ici? Numéro 6. Qui a la carte de prière numéro 6? Voulez-vous lever votre main? Ici, très bien. 6, monsieur. 7, maintenant. Ceci empêchera que l'on devienne tout à fait tassé ici. 7, très bien. Descendez ici, le numéro 7. Maintenant, numéro 8. Voulez-vous venir, monsieur? Numéro 9, très bien, monsieur. Numéro 10, très bien, petit garçon. Et pendant que nous pensons à cela, la chose la plus douce, quand je suis entré, un petit garçon, cela m'a tué quasiment, dit, rien que d'y penser. Un petit garçon se tenait là tout à l'heure et il m'a dit, frère Branham, voulez-vous faire quelque chose pour moi? Environ la taille de ce petit garçon-là. Et j'ai dit, que veux-tu mon garçon? Il a dit, priez pour ma maman. Il a dit, elle prend toujours le nom du Seigneur en vain et elle a une très mauvaise vie. J'ai dit, où vivez-vous? Ici dans la ville? Il dit, oui monsieur. Il voulait que sa mère soit une bonne femme. Ce n'est pas étonnant qu'Ésaïe a dit, un enfant les conduira. Numéro 10, n'est-ce pas? Numéro 10? Très bien. Numéro 11? Très bien. Numéro 12? Numéro 12? Très bien. Numéro 13? 14? Très bien. 15? 15, je n'ai pas vu numéro 15? 16? Très bien. Venez par ici, monsieur, si vous voulez. Le 16? 17? 18? 18, je ne l'ai pas vu. Très bien, madame ou chère sœur, 18. Très bien. Maintenant, allez par là, madame, si vous voulez. Allez par là, oui. Maintenant, regardez comment la ligne de prière se forme. C'est assez pour qu'ils se tiennent debout à ce moment. Et comme la ligne de prière diminuera, voyez-vous, alors laissez Billy Paul ou quelqu'un de la plateforme ici, frère Neville, quand vous les verrez dans peu de temps, maintenant, quand vous verrez que frère Neville voit la ligne de prière commencer, il vous fera signe comme cela, car je vais prier pour que le Saint-Esprit. Mais maintenant, cet homme-là, avez-vous une carte de prière? Vous qui êtes dans la chaise roulante, monsieur. Il avait sa carte de prière. Très bien, vous pouvez aussi l'emmener dans la ligne de prière. Maintenant, y a-t-il quelqu'un d'autre qui ne peut pas se lever? Que quelqu'un les conduise quand le temps viendra, s'ils ne peuvent pas? Maintenant, pensez où j'ai arrêté environ 18 ou 20, environ cela. Ensuite, continuez, 21, 22, et vous connaissez votre place en arrivant. Maintenant, vous souciez-vous? Croyez-vous qu'il s'est toujours soucié? Croyez-vous qu'il se soucie en ce moment? S'il s'est déjà soucié, il se souciera toujours. Croyez-vous cela?
La congrégation dit oui, notre éditeur.
Maintenant, je veux que vous soyez tous pleins de révérence. Gardez votre place et priez. Maintenant, vous dans l'auditoire, priez aussi. Maintenant, comment se soucia-t-il? Parce qu'il ne pouvait plus se soucier. Pas un homme ou pas un prophète, personne d'autre ne peut aller au-delà de la frontière de l'œuvre promise de Dieu. Est-ce vrai? Maintenant, peu m'importe que vous ayez été dans les lignes de prière 100 fois, mais vous vous tenez debout maintenant. Et vous qui êtes assis, s'il y a du péché dans votre vie, de l'incrédulité, confessez-le maintenant. N'osez pas venir sans cela. Vous pourriez venir par ici et peu importe combien un homme serait ou un et vous imposerait les mains, vous le manquerez sûrement d'une centaine de mille, à moins que vous y croyiez. Vous devez le croire, vous devez le confesser, vous devez le faire, voyez-vous? Et ensuite, si vous regardez ici, comment il y a... J'espère que vous compreniez. Voyez-vous, c'est impossible que Dieu ne garde pas sa parole avec vous, si vous avez gardé votre parole envers Dieu. Voyez-vous, si vous le croyez vraiment, rien ne peut vous faire douter. Le temps, l'espace, rien d'autre ne peut vous faire douter. Croyez-le. Le croyez-vous?
L'assemblée dit oui. Amen. de l'éditeur.
À présent, je vais regarder le long de la ligne de prière. Autant que je sache, sauf pour cet homme ici, je connais Gene Slaughter ici, je le connais. En dehors de lui, et je ne sais pas pourquoi ils se tiennent là, Dieu le sait. Et à présent, si vous savez tous que je ne sais rien de vous, levez votre main, vous qui vous tenez là. À présent, combien dans cet auditoire savent que je ne sais rien de vous? Levez vos mains. Maintenant, combien sont-ils conscients que Jésus-Christ vous connaît? Et combien consentiraient à dire ceci? Je crois.
L'Assemblée dit, je crois, monsieur l'éditeur.
Avec tout mon cœur.
Avec tout mon cœur.
Que Jésus m'a guéri.
M'a guéri.
Quand il fut crucifié.
Quand il fut crucifié.
Au calvaire.
Au calvaire. L'Assemblée a répété chaque phrase de frère Branham, notre éditeur.
C'est vrai, voyez-vous, maintenant qu'il l'a déjà fait, alors c'est à votre foi de l'accepter. Maintenant, il se soucie assez pour le faire, mais vous souciez-vous assez pour laisser de côté tout doute et le croire? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Maintenant, si vous êtes malade, si vous êtes affligé, j'ai vu, oh, vous savez, 10 000 fois 1 000 choses que le Saint-Esprit a faites. Et vous savez cela, des spasmodiques, même au point d'être mort. Un homme tomba mort ici, sur la plateforme, juste ici devant nous, il y a environ 3 semaines. Sa femme est une infirmière diplômée qui est assise ici. Et l'homme tombe à terre. Il est assis ici quelque part. Et voici sa femme assise ici maintenant. Et le voici assis ici quelque part maintenant. Oui, le voici debout ici. Ses yeux se sont retournés en arrière. Ils ont noirci comme cela, c'est vrai. Il tomba et je suis descendu. Elle l'a examiné. Plus de cœur, plus de pouls. Et j'ai mis mes mains sur lui. Il était parti. Et j'ai rappelé son esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il se leva. Voyez-vous? Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est? Il est la résurrection et la vie. Ce n'était pas moi, c'était le Consolateur qui a agi. Le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Voyez-vous? Nous l'avons accepté maintenant, c'est à lui d'intercéder. Alors comment pourrais-je? Dieu pourrait-il vous sauver contre sa volonté? Certainement pas. Il ne peut pas vous guérir contre votre volonté. Vous devez le croire. Maintenant, qu'est-ce que ce serait s'il pouvait prouver, si Dieu me laissait par un don divin, vous montrer que Jésus-Christ est ici avec nous, que ce Consolateur, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Au commencement était la parole. Est-ce vrai? La parole était Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Et la Bible dit dans Hébreux 4, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants qui discerne les pensées du cœur. Est-ce vrai? Et c'est ce que Jésus a fait pour prouver qu'il était la parole ouinte, le Messie. Oh, ne le voyez-vous pas? Qu'est le Messie? Celui qui est ouinte. Qui est ouinte? La parole ouinte. Et la parole fut faite chair. Il était cette parole ouinte. Et voyez-vous cela, frère Vell? Voyez, il est la parole ouinte. Et maintenant, quand vous consacrez à lui, alors il se sert de vous, au-delà de tout ce que vous savez, prouvant qu'il est la parole ouinte qui discerne les pensées du cœur. Oh, comment quelqu'un peut-il douter? Croyez seulement, ne doutez pas. Et vous qui êtes assis ici, je frappe ce sujet ce matin, quand une petite femme se soucia, à tel point qu'elle pensa qu'elle n'arriverait pas dans la ligne de prière peut-être. Mais elle toucha le bord de son vêtement et il se retourna. Croyez-vous cela? Croyez-vous que cela peut se faire aujourd'hui? Oui. Maintenant, comment le toucheriez-vous? La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Dès maintenant, un souverain sacrificateur, assis à la droite de la majesté de Dieu pour intercéder à partir de nos confessions. Nous confessons que nous le croyons et nous voulons toucher le souverain sacrificateur. Et si nous le touchons, comment agira-t-il? Il est ici, dans la forme du Saint-Esprit. Alors il nous répondra et il nous dira exactement, est-ce vrai? Maintenant, croyez cela et restez assis, restez tranquille, restez respectueux et surveillez la chose. Maintenant, s'il le fait au moins 3 fois, ce sera suffisant, n'est-ce pas? S'il le faisait 3 fois, 1, 2, 3, s'il le faisait, comment allez-vous? Maintenant, juste un moment pendant que nous prions, voyez-vous, c'est quelque chose qui est un peu différent actuellement. J'ai prêché et ensuite, je me suis tourné vers ceci. Maintenant, je n'ai pas demandé au Seigneur pour ceci depuis longtemps, mais le Seigneur connaît mon cœur. Et qu'il accorde votre requête, et je crois qu'il le fera. Maintenant, une femme se tient ici, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Autant que je le sache, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle a peut-être été assise dans un auditoire quelque part, où elle m'a peut-être connue par le moyen de la littérature. Mais le Père Céleste le sait, pour autant que je le sache, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est étrangère. Maintenant, s'il est le même, voici un homme et une femme qui se rencontrent ici comme Jésus a rencontré la femme au puits dont j'ai parlé tout à l'heure. Il se soucia pour elle. Maintenant, cette femme n'est peut-être pas coupable de la même chose que cette femme le fut. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il se soucie autant pour elle qu'il le faisait pour cette femme là-bas. Voyez qu'il se soucie. Maintenant, et quand nous l'avons vue, elle l'a reconnue. Et nous voici tous les deux, nous tenons comme ceci. Maintenant, je ne l'ai jamais vue. Maintenant, si le glorieux Saint-Esprit, l'invisible, maintenant, si les sens de la foi me le déclaraient, il a porté le sens de la foi, et sa parole l'a porté si près dans ces derniers jours, qu'il y a même une photo de lui ici. Il l'a porté si près de nos sens. Loin, il s'est éloigné. L'a vu venir ici, se mouvoir dans cette forme d'une colonne de feu. Ne l'a-t-il pas fait? Maintenant, il est ici. Je sais qu'il est ici. Ma foi dit qu'il est ici. Maintenant, s'il peut se matérialiser assez ici pour saisir la vie de cette femme, vous voyez, comme il a promis qu'il le ferait, le Saint-Esprit fera la même œuvre qu'il a faite. Maintenant, étant donné que j'ai prêché, je voudrais juste vous parler une minute afin de voir un peu seulement. Et comme il a fait la femme au puits, il a dit, apporte-moi à boire. Vous savez, il était probablement assis à penser à ceux de ses disciples qui étaient partis chercher la nourriture. Et après, il devait lui parler une minute, vous savez. Le Père l'avait envoyé là, il devait le faire. Il s'en allait à Jéricho, il monta en Samarie, et c'est là, en haut de la montagne. Il avait besoin de passer par là. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, j'avais besoin. Le Père m'a envoyé de l'Arizona jusqu'ici, et vous êtes entré. Alors c'est la même chose. Rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. La grâce de Dieu est vraie. Maintenant, ne vous connaissant pas, et vous avez l'air bien, en bonne santé, ce n'est peut-être pas pour cela que vous êtes ici. C'est peut-être pour autre chose, c'est peut-être pour un bien-aimé, c'est peut-être une affaire domestique ou financière. Je n'ai aucun moyen de le savoir, vous le savez bien. Mais s'il m'explique pourquoi vous êtes ici, vous saurez si c'est la vérité ou pas. Et l'auditoire pourra-t-il croire d'un même cœur alors? Maintenant, vous nous écoutez, vous nous entendez, et cela est enregistré, et nous nous tenons ici sur la plateforme. La dame, je la vois tenir sa tête comme ceci. Elle a des maux de tête qui la dérangent, comme des migraines. Ce sont des maux de tête persistants qui reviennent toujours. C'est vrai. Si c'est vrai, levez votre main. Voyez-vous, c'est vrai. Et une autre chose, elle a un trouble de la glande thyroïde dont on lui a parlé. Et c'est un trouble. Et il a raison, c'est bien la glande thyroïde. Et ensuite, vous avez des complications. Plusieurs choses vont mal avec vous. Vous êtes nerveuse, bouleversée, et vous devenez énervée. Et parfois, vous vous demandez, où est-ce que je me tiens? Suis-je dedans ou dehors? Et c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, il vous connaît. Vous ne pourriez pas vous cacher maintenant, même si vous le vouliez. Voyez-vous? Croyez-vous qu'il peut me dire qui vous êtes? Bien. Viola, retournez à la maison. Jésus-Christ vous guérit. Croyez-vous? Moi, je ne sais pas, mais Jésus-Christ sait toutes choses. Voilà un autre étranger pour moi. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Me croyez-vous son prophète, son serviteur? Croyez-vous que les choses que je vous ai prêchées de cette parole sont la vérité? Le croyez-vous? Et si le Seigneur me dit pourquoi vous êtes ici, croyez-vous que je suis son serviteur? Et il fait ceci car il se soucie de vous. Lui, il se soucie pour vous. Il fait cela parce qu'il se soucie pour vous. Il s'est soucié pour ces autres qui sont venus dans la ligne. Il se soucie pour eux. Vous avez eu des troubles, un accident d'automobile. Vous en êtes tous secoués, c'est vrai. Vous avez des troubles avec votre hanche, c'est vrai. Mais cela va aller mieux. La nervosité va vous quitter. Alors retournez chez vous en remerciant le Seigneur et en disant gloire à Dieu. Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles. Très bien. Croyez-vous? Je ne vous connais pas. Vous êtes un étranger pour moi. Mais Dieu vous connaît. Croyez-vous qu'il peut me dire la raison pour laquelle vous êtes ici ou quelque chose de vous? Le croyez-vous?
La femme répond, oui, mon bel éditeur.
Il y a une autre femme. Ce n'était pas vous qui étiez malade. Non, ce n'est pas vous. C'est vous, vous êtes ici pour quelqu'un. Vous êtes ici pour... C'est pour votre mère. C'est vrai, elle a quelque chose avec sa hanche aussi, c'est vrai. Elle n'est pas ici, elle est près d'un endroit, cela me semble comme English, quelque part là. Est-ce vrai? Oh, le croyez-vous? Très bien, allez, elle est guérie. Il y avait deux femmes, l'une d'entre elles était plus âgée, alors je me demandais où c'était. Et le Seigneur Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Et il peut faire toutes choses. Croyez-vous cela? Amen. N'est-il pas merveilleux? Oh, je l'aime. Il est ma vie, il est tout ce que je possède, il est tout ce que je désire. Et l'onction suit cette dame, et il y a une autre dame assise là-bas. Elle est troublée par des problèmes nerveux. Elle a une excroissance sous le bras, est-ce vrai? Et quand elle a mis les mains sur vous, vous avez ressenti un drôle de sentiment, n'est-ce pas vrai? C'est alors qu'il vous a guéri. Vous allez aller mieux, vous n'aurez plus besoin de cette béquille. Regardez où elle en est. La femme pour qui elle priait ici, voyez-vous? Avez-vous remarqué quand elle priait? Je priais pour elle. Qu'est-ce qui est arrivé? Voyez-vous? J'ai vu une autre femme et j'ai regardé de ce côté. Et il y avait comme un grand sentiment spécial. Ils doivent se connaître ou quelque chose du genre où ils ne sont pas des inconnus. Car cette femme avait un sentiment pour cette femme ici. Et cette femme descend et la touche. Et quand elle le fait, j'ai regardé et j'ai vu quelque chose à l'horizon. Elle était là. Se tenant debout là, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Dieu au ciel, c'est cela. Oh, pourquoi douteriez-vous? Si vous pouviez croire, il pourrait même vous enlever des habitudes. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il vous rétablira? Allez-y, et vous arrêterez aussitôt, et vous n'en fumerez plus jamais une autre. Allez et croyez de tout votre cœur. Croyez en Dieu, ne doutez pas. Croyez-vous? Est-ce que nous en avons eu trois? Encore, croyez-vous en Dieu? Ne doutez pas, croyez seulement. Croyez-vous que l'onction est ici, maintenant même? La congrégation dit oui, amen, notre éditeur. Amen, ne doutez pas, mais croyez. Je vais vous imposer les mains et vous allez croire. Voulez-vous croire avec moi? L'homme dit oui, monsieur, notre éditeur. Au nom de Jésus-Christ, que ce frère soit guéri. Amen. Croyez maintenant, ne doutez pas. Oh, juste un moment, quelque chose est arrivé en arrière dans l'auditoire et je ne pouvais pas voir, c'est là-bas au fond. Je crois que cela s'est caché de moi maintenant, mais le voici, je le vois dans une ombre, c'est un homme et il souffre de la nervosité. Il a un garçon qui est épileptique. Croyez de tout votre cœur, monsieur. Le croyez-vous? C'est bien. Très bien, placez vos mains sur ce garçon-là et il ira bien. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-vous? Le démon croyait qu'il pourrait se cacher de cela, mais il a échoué. Croyez-vous? Cette chose se promène encore quelque part. Oh, pour la grâce et pour prendre soin. Attention, il y a un autre épileptique ici quelque part. Oui, le voici, juste ici. Croyez-vous? Ayez la foi. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Vous pouvez retourner en Ohio, soyez en santé. Monsieur Nelson Grant, c'est votre nom. Si vous croyez, ces choses vous quitteront et ne vous troubleront plus jamais. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie et je ne connais rien de lui. Mais vous ne pouvez plus le cacher maintenant. le Saint-Esprit est ici. Inclinons nos têtes et louons le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ta grâce ne se trompe jamais, Seigneur. Elle est toujours la même. Je prie que la grande miséricorde et ta grande bonté demeurent sur les gens. Tu te soucies assez, Seigneur, pour venir confirmer toi-même. Tu es Dieu, tu es le glorieux Saint, le glorieux Saint-Esprit. Maintenant que ces gens croient, Seigneur, à mesure qu'ils passeront par ici, que chacun soit guéri. Et comme ton onction est présente, je me prosterne et je prie sur ces mouchoirs. Je prie, Seigneur, que tu accorderas ces requêtes, Père. Accorde-le, Seigneur, ici dans l'auditoire. Et que chaque personne qui est dans ta divine présence se soucie assez pour croire, que tu te soucies assez pour ressusciter dans les derniers jours parmi les gens et pour prouver. Tu ne peux pas les guérir, Seigneur. Tu ne peux pas faire ce que tu as déjà fait. Tu les as déjà guéris. Et c'est la seule chose qui peut être faite pour les amener à croire. Et tu te soucies tellement, malgré l'incrédulité qui nous fait chanceler, tu te soucies quand même pour le montrer vivant et ressuscité des morts parmi nous. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis et que chaque personne dans sa divine présence soit guérie, l'âme et le corps, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, passez par ici. Laissez les gens passer le long d'ici. Très bien, Billy les appellera section par section. Maintenant, ne parlons plus. Voyez que l'onction est sur moi. Je vais vous imposer les mains tandis qu'il est ici. Voyez-vous, je ne puis m'arrêter au discernement. Car si je le fais, combien sont ici afin que l'on prie pour vous? Levez vos mains. Environ 70% des gens, voyez-vous. Il est maintenant 1h-10. Le service de baptême suivra. Je ne puis pas le faire, mais vous pouvez croire. S'il se soucie assez pour se montrer, vous devriez vous soucier assez pour croire. N'est-ce pas vrai? Très bien, que tout l'auditoire prie et que Billy ou Frère Neville, que quelqu'un prenne ce micro. Gardons nos têtes inclinées, prions pendant qu'ils passent dans la ligne. Maintenant, je vais prier pour chacun de vous. Vous imposez les mains et demandez que chaque démon malin qui vous possède vous laisse aussitôt que vous passerez dans cet endroit qui est loin maintenant, si je dois le dire ainsi, l'onction est là, même derrière comme elle est ici, mais je le fais pour votre foi, et que tous prient. Au nom de Jésus-Christ, que ce petit garçon soit guéri. Amen. Ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que votre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, j'obéis à ton commandement, Seigneur. Tu as dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Les croyants, tous deux, s'ils imposent leurs mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Au nom de Jésus, je fais exactement cela. Au nom de Jésus-Christ, j'impose les mains à ce frère. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'impose les mains à notre frère pour sa guérison. Amen. Il se soucie pour vous, ma sœur. Je me soucie de vous imposer les mains, mais vous souciez-vous assez pour croire? Amen. Au nom de Jésus-Christ, que cela arrive, que notre sœur soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre sœur soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre sœur soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre frère soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que notre sœur soit guérie. Au nom de Jésus, guéris ma sœur ici, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris ma sœur. Au nom de Jésus, guéris mon frère. Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur. 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 Frère, il se soucie. Vous souciez-vous? Soyez guéris dans le nom de Jésus. Que tous prient maintenant, que tous prient. Ceci est ton peuple qui passe ici. Au nom de Jésus, guéris ma sœur. Au nom de Jésus, guéris mon frère. Amen. Au nom de Jésus-Christ, guéris mon frère. Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur. 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 Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur et mon frère. Guéris ma sœur, Seigneur. Guéris ma sœur, je prie dans le nom de Jésus. Guéris ma sœur, Père, au nom de Jésus. Guéris ma sœur, au nom de Jésus. Ô sœur, il se soucie, vous souciez-vous. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, recevez votre guérison, sœur. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, guéris ma sœur. Guéris ma sœur, Père, dans le nom de Jésus. Guéris mon frère au nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris mon frère au nom de Jésus, Seigneur. Guéris ma sœur, Père, au nom de Jésus. Guéris mon frère dans le nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris ce petit garçon dans le nom de Jésus. Guéris frère Graïs, Seigneur, au nom de Jésus. Et guéris notre sœur dans le nom de Jésus-Christ. Guéris-les, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Est-ce là votre femme? Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Guéris mon frère et mon frère. Guéris ma sœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris mon frère au nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom de Jésus. Guéris mon frère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Guéris ma sœur au nom de Jésus-Christ. Guéris mon frère dans le nom de Jésus. Guéris-les, Père, au nom de Jésus. J'offre ma sincère prière pour chacun. Vous souciez-vous maintenant? Jésus se soucie. Jésus a envoyé un message. Jésus a envoyé son esprit. Jésus a envoyé sa parole. Jésus a envoyé son serviteur. Nous soucions tous. Maintenant, vous souciez-vous? Si vous vous souciez, croyez-le avec sincérité et ce sera accompli. Frère Branham continue de prier pour tous les malades qui passent devant lui, note de l'éditeur. Puis il se met à chanter le cantique. Il se soucie de vous, il se soucie de vous, que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie de vous, il se soucie de vous. Déchargez vos soucis sur lui alors. Il se soucie de vous, que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie de vous. Vous souciez-vous de lui? Vous souciez-vous de sa parole? Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour un moment. Je crois que j'ai répondu à toutes ces requêtes. J'ai répondu aux requêtes, n'est-ce pas, à chacun de vous? Il y a quelques instants, j'ai fait une petite erreur dans la réunion. Je suis sûr que quelqu'un s'en est aperçu. Le Seigneur vient de me noter que quelque part maintenant, j'ai dit quelque chose à quelqu'un alors que c'était pour quelqu'un d'autre. Mais je ne peux plus voir la personne où c'était. Mais c'est quelqu'un à qui j'ai accordé une bénédiction au lieu d'une autre. Et il passait très vite et je n'ai pas remarqué. Et je n'ai pas... Oui, c'était cela. Je le vois maintenant. C'est cet homme et cette femme assis ici. Si je ne me trompe pas, je leur ai serré la main hier soir dans une chambre de motel ou quelque chose de ce genre, dans une cour de motel ici, à Jefferson Villa. J'ai dit quelque chose à l'homme et je l'ai appelé sœur au lieu de l'appeler frère. Quand vous êtes passé par ici, avez-vous remarqué cela? Et je l'avais bien dit à l'intention de votre femme, car elle a des troubles depuis un bon moment déjà, des troubles d'intestin pour longtemps, et vous êtes de l'Illinois. Madame Mongalam, c'est vrai, c'est là votre nom. Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas, mais vous êtes bien en contact maintenant. Croyez de tout votre cœur, et il y aura une élimination complète qui sera normale, comme cela a été déjà dit, si vous le croyez. Que vous puissiez le voir toujours. Maintenant, la seule chose que je sais, hier soir, je me rappelle avoir pensé à l'homme. Je pensais qu'il avait de si beaux cheveux, les cheveux séparés au milieu, cet homme aux cheveux gris, assis ici. Et je m'occupais à le regarder, et cette lumière était là, tout autour d'eux, comme cela. Et c'est ce que c'est. Et ensuite, j'ai vu la vision éclater. Et je ne savais pas qui ils étaient, ou rien au sujet de cela. Et la dame était là hier soir. J'ai dit, venez-vous à la réunion? Elle m'a dit oui. Mais la grâce de Dieu l'a ramenée aussitôt, et c'était elle. Avez-vous remarqué dans la ligne de prière, frère, que quelque chose avait été dit, qui s'était croisé? C'était pour notre sœur, au lieu que ce soit pour vous. C'est vrai, c'est allé à cette sœur là-bas. Maintenant, afin que vous sachiez que par cette ligne de prière, l'ange du Seigneur était là, il pouvait appeler, mais comme vous appelez cela faiblit, voyez-vous? Alors il se soucie pour vous, et je me soucie pour vous. J'aurais pu continuer pour 4 ou 5 de plus, mais la première chose que vous savez, c'est que Gilly aurait été ici pour me faire sortir de la chair. Mais je pensais sûrement, j'ai vécu avec vous toutes ces années, et alentour et à travers la nation, et vous savez que je vous aime. Oh, je vous aime, comme si vous étiez mes propres enfants, et vous êtes mes enfants dans l'Évangile. Je vous ai engendré à Christ par l'Évangile. Et maintenant, je crois que ces requêtes et ainsi de suite ici, j'y ai répondu. Alors, je vous aime, et je pensais que si j'allais et que je vous imposais les mains, vous verriez que le Saint-Esprit fait cela, et qu'ensuite, juste un petit soupçon commence à monter de la ligne comme cela. Je l'ai manqué, je passais si vite, et j'ai prononcé une bénédiction pour un autre. Et ensuite, le Saint-Esprit a fait demi-tour après la réunion, et nous l'a montré de nouveau. Voyez-vous? Ne voyez-vous pas qu'il se soucie? Maintenant, vous souciez-vous assez pour dire, dès aujourd'hui, quelque chose dans mon cœur me dit que mes troubles sont finis. Je suis très bien, je vais être bien. Le croyez-vous? Levez vos mains. Je le crois. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie de vous. Ceci est un grand festin d'amour. Chantons et serrons-nous la main les uns les autres. Il se soucie de vous. Il se soucie de vous. Que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie de vous. Je vous ai gardé si longtemps ce matin, jusqu'à ce que je... Mon pasteur ne prêche pas aussi longtemps que moi. Il essayera d'apporter le message pour vous ce soir. Nous vous ferons savoir s'il y aura un service dimanche prochain avec le titre. Si je ne le fais pas, il y aura des services quand même. Alors que Dieu vous bénisse tous et chacun. Je crois qu'il y a un service de baptême qui va commencer maintenant. Alors si vous voulez bien vous lever juste un moment pour que nous puissions avoir le congé pour partir, chantons cela à nouveau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et maintenant, si vous vous souciez de lui, disons, Seigneur, quand vous faites ceci, vous faites cette déclaration, Seigneur, je sais que tu te soucies de moi, et j'élève mes mains, je me soucie pour toi. Et élevons nos mains haut dans ce festin d'amour et de charité, et chantons, il se soucie pour vous, il se soucie pour vous, que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie pour vous. Maintenant, inclinons nos têtes et disons, Frère Branham fredonne le cantique qui se soucie pour vous, nos bénédicteurs. Oh, la douceur de mon Seigneur! Ne sentez-vous pas son amour qui vous attire tout près de lui? Dites, Seigneur, je t'aime, tu te soucies pour moi, Seigneur. Tu t'es tellement soucié que lorsque j'étais un pécheur, tu es mort pour moi. Tu as été meurtri pour mes transgressions et avec tes meurtritures, j'ai été guéri. Il se soucie pour vous. Il se soucie pour vous, que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie pour vous. Rappelez-vous cela en inclinant vos têtes. Je vais demander à Frère Edouard ici s'il veut bien faire la prière de clôture. Mais avant, fredonnons cela encore. Et Frère Branham commence à nouveau à fredonner, il se soucie pour vous, nos bénédicteurs. Rappelez-vous, que ce soit le soleil ou l'obscurité, il se soucie pareillement, il s'est soucié. Vous souciez-vous? Oui, Seigneur, je promets que je me soucie. Je vais de l'avant maintenant. À partir d'ici, je me soucie. Je me soucie de mon témoignage.